Nous voici réunis ce soir à l'initiative de l'ENSIB et du Salon du Livre de Saint-Priest pour écouter, parler avec trois éditeurs. Alors, donc, à l'extrême gauche, nous avons Benoît Jacques des éditions. Pardon, donc Christian Bruel. Je ne suis pas encore tout à fait au point. Donc Christian Bruel pour les éditions Être. Ensuite Christian Humbert de Rose pour les éditions Drosophile. Et Benoît Jacques pour Benoît Jacques Books. Notre modérateur est Philippe-Jean Catinqui.
Eh bien, écoutez, d'abord, merci d'être venu pour cette rencontre et merci à nos trois invités. Comme on vous l'a annoncé, donc, c'est à la fois l'ENSIB et le Salon de Saint-Priest qui est donc depuis 10 ans déjà, puisque c'est sa 11e édition en 2010. Qui est né en l'an 2000 Touron, qui est consacré donc à la petite édition et à la jeune illustration, qui sont à l'initiative de cette rencontre. J'ai pensé à couper mon portable et apparemment je l'ai pas fait. Donc voilà, c'est sérieux. Alors pensez-y, vous voyez, ne faites surtout pas ce que je fais moi, coupez-le d'ores et déjà, ça sera plus simple si j'y arrive. C'est un test d'habileté qui parfois me laisse dans un état pantelant. On va tâcher d'y arriver. Ça y est, cette fois ça marche. Donc, ou plutôt ça ne marche plus. Je rappelais donc la spécificité du Salon de Saint-Priest, parce que jeune illustration et petite édition, on comprend assez facilement ce que ça veut dire. Jeune illustration, il s'agit d'imposer le talent de jeunes gens, filles et garçons, qui font leurs premiers pas dans l'édition et dont il s'agit d'imposer la signature graphique. Pour la petite édition, c'est un petit peu plus compliqué, parce que dans le mot petite édition, on peut aussi bien concevoir une maison d'édition de petite taille qui fait peu de livres et qui ne tient pas forcément à connaître une croissance exponentielle, qui ne veut pas forcément rivaliser avec les mastodontes du genre que sont Albin Michel Jeunesse, Le Seuil Jeunesse, Gallimard Jeunesse, j'en passe et d'autres. Mais très vite, on peut aussi trouver dans la série petite édition, c'est moi qui fais autant de bruit, bon, je vais m'éloigner un peu si ça ne nuit pas trop à l'audition. On peut trouver des maisons qui naissent, qui bien sûr sont de petites maisons quand elles naissent, mais qui en l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, sont déjà considérées comme appartenant à la cour des grands. Donc c'est un petit peu ce qui va nous amener à comprendre pourquoi on a demandé aux trois éditeurs qui sont à mes côtés de venir échanger sur ce thème de la petite édition. L'intitulé exact de notre débat, vous l'avez sûrement remarqué, c'est « Petit éditeur, point d'interrogation, grand créateur ». Alors est-ce qu'il faut être petit pour créer beaucoup? Est-ce que quand on crée, on a plus de difficultés à se développer? Autant de choses qu'on évoquera. Après un premier tour de table rapide de mes trois invités. Le premier à qui je vais donner la parole, c'est Christian Bruel, parce qu'on vous l'a présenté comme l'éditeur des éditions Être, bien sûr, mais ceux qui connaissent le domaine de l'édition jeunesse depuis pas mal de temps savent qu'avant Être, il y a eu d'autres aventures éditoriales, et que si justement il y a eu plusieurs aventures successives, alors qu'on avait le même chef à bord et la même conscience, c'est que peut-être il n'est pas facile non seulement de grandir, mais même de durer. Donc Christian, est-ce que tu peux très rapidement nous rappeler ton parcours dans l'édition, avec les différents noms qu'ont eu tes lieux d'intervention, et déjà peut-être un sentiment sur ce que c'est qu'une petite maison.
Merci, bonsoir.
Faut le remonter peut-être un petit peu. Est-ce que c'est vert devant toi?
Si c'est pas encore push. Vert. Push, c'est bon, il faut push.
Ouais, il faut push.
Oui, bonsoir.
Merci. Pourquoi frontier, c'est push.
Donc, je m'appelle Christian Bruel, je n'ai absolument aucun lien de parenté.
Avec l'autre?
Avec, parce que moi c'est mon vrai nom, etc. Et ça fait 36 ans que je suis éditeur.
Donc je suis donc un peu avant ta naissance déjà.
Oui, c'est ça. Et donc en 75, j'ai créé une maison d'édition qui s'est appelée pendant 20 ans Le Sourire qui mord. Les 10 dernières années de 85 à 95, cette maison d'édition a été sous l'aile de Gallimard Jeunesse. Puis nous sommes séparés avec Gallimard Jeunesse, qui est toujours un peu douloureux pour le plus petit.
Pour la réputation du plus grand aussi, parfois.
Oui, mais enfin, la réputation, c'est vite bu, comme dirait ma grand-mère. Et ensuite, j'ai créé une autre maison d'édition qui s'est appelée Jusqu'à Hier, les éditions Être. Je dis Jusqu'à Hier parce que au 31 décembre cette année, j'arrête. Parce que, bon, on va dire, avec élégance que le marché a eu ma peau, et qu'au bout d'un moment, il faut savoir arrêter ce genre de choses. Voilà, donc après presque 14 ans de fonctionnement, la maison d'édition Être apparaît comme n'étant pas viable économiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai toujours fonctionné en autofinancement intégral, c'est-à-dire c'était le fruit des ventes, le produit des ventes qui permettait de tenir. Et c'est bête comme chou. Il y a dans la salle une autre éditrice qui connaît ça aussi, les éditions Hippomée. Quand vous avez un catalogue, là actuellement on a 78 titres au catalogue, quand vous avez 78 titres, qu'il y en a en gros une quinzaine qui font bouillir la marmite, enfin bouillir, qui font frémir la marmite.
Qui maintiennent en vie,
et que ces titres-là, vous n'avez pas les sous pour à la fois produire des nouveautés, ce qui est quand même l'un des buts et l'un des plaisirs de ce métier, et puis entretenir le fond qui vous fait vivre, mais au bout d'un moment, ça coince, il n'y a pas les sous, etc. Puis autre chose qui est importante aussi à dire, mais je ne voudrais pas plomber complètement le débat
mais
en parlant de ça.
C'est pour ça qu'on commence par toi, comme ça on reviendra un peu plus d'optimisme avec les deux suivants.
C'est compliqué, hein. C'est que, comment dire ça, on est... Enfin, je pense que mes chers confrères auront à peu près la même analyse. C'est extrêmement difficile d'atteindre les seuils de rentabilité. Et ces seuils de rentabilité, bon, ça fait 35 ans que je me bats pour les atteindre, et puis on les atteint toujours plus ou moins. En tout cas, ça se compense. Bon. Mais dès que le marché devient un peu tendu, dès qu'il y a une frilosité idéologique, peut-être qu'on en reparlera, dès que je rencontre du mal des bibliothécaires, je crois que c'est le lieu.
C'est pour ça qu'on a créé un espace, comme ça, ça me permet de les protéger malgré tout. Je suis modérateur bouclier.
Comme j'étais arrivé très en avance, j'ai pu visiter le zoo de la Tête d'Or. Il y a toujours une fosse comme ça.
C'est plus prudent.
Je rencontre des bibliothécaires qui, sûrement pour des problèmes de formation, me disent qu'ils sont au service du public, et être au service du public, ce serait donner au public les livres dont... que le public réclame, enfin il y a une sorte d'audimat dont je m'étais, quand j'étais président du groupe des éditeurs au syndicat national de l'édition, parce que j'ai aussi fait ça dans ma vie, je m'étais beaucoup battu contre le début du commencement du prépayant en bibliothèque, en disant que si on faisait rentrer les principes d'audimat dans ces institutions, c'était cuit. C'est-à-dire que c'était pas forcément cuit, mais ça laissait entendre que la demande du public allait être la jauge, quoi. Voilà. Et ça se joue à quelques centaines d'exemplaires près. Ça passe ou ça passe pas. Et quand ça passe pas à quelques centaines près sur plusieurs titres, ben, si vous êtes en autofinancement, si vous n'avez pas les reins solides, vous coulez. C'est bête comme chou.
Alors, une question, et je te laisserai quand même revenir sur ta conception de ce que c'est qu'un éditeur-créateur, parce que notre sujet, c'est ça. Des petits éditeurs sont-ils finalement mieux placés que d'autres pour imposer la création ?
Si je peux me permettre juste là-dessus,
bien sûr.
La taille d'un éditeur n'est pas la garantie de sa qualité.
On va y venir, mais simplement, puisque tu nous rappelais que Le Sourire qui mord avait vécu indépendant pendant une dizaine d'années, puis avait accepté en quelque sorte l'aile protectrice de Gallimard pour tenir 10 ans de plus, est-ce qu'il y a eu pour les éditions Être la même tentation? Est-ce que tu as fait les mêmes démarches pour trouver un endroit capable d'accueillir Être comme on a accueilli Le Sourire qui mord? Est-ce que, échaudé par la première expérience, tu n'as rien tenté ou est-ce que personne n'a voulu soutenir Être parmi les grandes maisons?
C'est enregistré, si j'ai bien compris, puis j'ai signé un papier avant comme quoi ça allait se diffuser, donc je vais être prudent.
Mais tu peux le déchirer, hein, pour
peut-être.
L'instant.
Enfin, on verra si je maintiens. Je voudrais pas monopoliser, mais puisque tu me le demandes, je réponds. J'étais pas du tout hostile à l'idée de survivre 10 ans de plus sous une aile
D'accord.
bienveillante. Donc j'ai fait le tour d'un certain nombre de mes confrères qui paraissaient moins fragiles. Je suis allé voir Actes Sud Vieillesse pour distinguer Actes Sud Jeunesse, qui avait servi de cheville ouvrière, parce que Actes Sud Jeunesse, Thierry Magnier, pour ne pas le nommer, est un garçon qui ne voulait pas que je disparaisse, mais qui n'a toujours pas la main au niveau économique. Il n'est pas patron de maison, quoi. Mmh. Il n'est plus patron de maison.
Donc, il est sur la partie Magnier.
Il est sur la partie Magnier, il est directeur d'Actes Sud Junior, mais il est...
Il n'est pas sur Actes Sud tout court.
Il n'est pas actionnaire d'Actes... Enfin, il est peut-être actionnaire, mais il n'est pas majoritaire chez Actes Sud. Donc, ce n'est pas lui qui peut décider. Donc, j'ai rencontré Mme Nissen et M. Capitani, qui est le financier. Et ça s'est mal passé. Ça s'est très, très bien passé. On s'est embrassé sur la bouche à la fin, ou presque. Enfin, c'était...
Ça peut être dangereux.
Mais le lendemain, je recevais de leur directeur financier une proposition qui était à 180 degrés de ce qu'on avait dit la veille, quoi. Donc je leur ai téléphoné pour leur demander si par hasard ils ne me prenaient pas complètement pour un con. Et il est apparu que oui.
Moi, pour moi, t'étais fixé.
Voilà. Et alors, donc, j'ai fait le tour. Je suis allé revoir Monsieur Gallimard, parce que, bon, historiquement, je ne pouvais pas ne pas aller les voir. Ça n'a pas duré 5 secondes. C'était non. Et puis, je suis allé jusqu'à... je vais tout vous raconter. Oui. Je suis allé voir Flammarion. Avec Flammarion, Louis Delasse était partant. Et ça a bloqué plus haut. Je ne sais pas qui a bloqué plus haut. Enfin, si, je sais, mais... Voilà, donc... tous les confrères de taille petite ou moyenne étaient tout à fait prêts à ce qu'on s'associe, ou un certain nombre en tout cas, à ce qu'on... mais bon, c'est pas la peine d'associer deux boiteux, ça marche pas fort, quoi.
Oui, ça bat pas les records du monde.
Ça bat pas les records du monde, donc il fallait trouver vraiment un éditeur qui avait les reins assez solides. Et ce qui est troublant, et ce qui est signe de l'époque aussi, je crois, c'est que des éditeurs de taille vraiment importante n'ont plus ce qu'ils avaient il y a quelques années, c'est des espèces de niches. On peut penser par exemple qu'Hachette pourrait s'acheter une Vertu, sans jeu de mots, en ayant une espèce de niche de création, ou en ayant, bon, c'est plus dans la logique de l'époque. C'est-à-dire que l'époque est plus à ça. Elle est vraiment à des rentabilités qui sont très strictes et qui sont très, très tenues dans les maisons.
À la limite, rien ne se négocie maintenant.
Oui, parce que ça aurait été il y a 10 ans, me dit-on. Ce qui est toujours sympathique.
Au moins, c'est un aveu que les règles ont changé. Je passe d'un Christian à l'autre pour ce premier tour de table. Alors, Christian, on se connaît, on le disait tout à l'heure, depuis pas mal de temps, mais j'ai jamais eu à le cuisiner en public. Donc, je pense que je vais le laisser un peu plus libre de parole que ses deux voisins qui me connaissent et me subissent depuis longtemps. Donc, Christian, les éditions de Drosophile, c'est peut-être là aussi une maison que tout le monde ne connaît pas, parce que ça fait partie des petites maisons. Alors, je pense que les bibliothécaires ont plus de raisons de connaître ta production. En Rhône-Alpes, on était tout contents que le premier prix du livre Jeunesse Rhône-Alpes est couronné une de tes publications, c'était Peau d'ours,
c'est magnifique, ouais.
De Camille Jourdi, ouais. Qui est un livre formidable et qui est toujours un livre formidable, parce que Dieu merci, il existe encore. Camille fait beaucoup plus de bandes dessinées que d'albums jeunesse depuis, mais en tous les cas, nous on était très très contents de commencer notre palmarès avec cette création-là. Alors peux-tu présenter rapidement ta maison et la façon dont tu t'inscris dans ce paysage où on a surtout affaire à des éditeurs jeunesse, alors que toi c'est pas forcément une bonne façon de te présenter.
Ouais, bon, moi c'est un peu différent, c'est des éditions un petit peu bâtardes parce qu'on fait autant de la bande dessinée jeunesse ou adulte ou des livres jeunesse parce que c'est quand même sympa de le faire. Et puis alors je comprends très bien ce que mon collègue a dit. Moi j'ai pas tout à fait le même problème parce que à la base je suis sérigraphe, imprimeur sérigraphe, enfin j'exécute des commandes que ce soit pour des affiches culturelles, pour des théâtres ou des groupes de musique, et puis ça me permet d'imprimer des livres. Donc en fait mon travail principal c'est la sérigraphie, et j'édite des bouquins en sérigraphie, je dirais par idéalisme. C'est un peu ma réponse à toute l'informatique, à tout ce qu'on a sur la toile. Moi, je fais en sérigraphie à travers la toile. Et puis, ma récompense, c'est quand je suis sur des salons. Alors, j'aimerais bien que les gens achètent un peu plus nos bouquins, mais c'est vrai qu'ils sont coûteux. Donc, vous pourrez voir au salon de Saint-Priest, là, je vais faire juste une petite pub pour le salon. On a tout en haut dans le château un atelier depuis, ça va être la 7e année, qu'on tient cet atelier pour les enfants. Et puis, on fait imprimer une image en sérigraphie aux enfants, ce qui montre un tout petit peu la lenteur de cette technique et le temps qu'on passe pour faire un livre. Donc, tous les livres sont imprimés sur cette technique-là, pratiquement tous. Et puis, à cause de Camille Jourdi, j'ai mis un doigt...
Grâce,
parce que c'était juste une rencontre magnifique. Et puis, c'est vrai que le premier livre, les tagliatelles, une araignée des tagliatelles et au lit, qui était son premier livre. Moi, j'étais sur un marché à Paris, il faisait très froid, on se tapait des semelles, et j'étais en train de me demander ce que je faisais là. Et puis, cette petite nana, toute timide, est arrivée, m'a demandé si elle pouvait me montrer ce qu'elle faisait. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de ce livre. Et puis, mon premier réflexe était de lui dire, mais avec la sérigraphie, je vais abîmer ton travail. C'est pas un livre qui est fait pour la sérigraphie. Puis voilà, mais c'est un petit chef-d'œuvre. Ton bouquin, c'est vraiment bien. Comme on peut lire sur un salon, un peu en diagonale, mais ça m'a fait éclater de rire. C'est tendre, c'est beau, c'est intelligent. Enfin, c'est vraiment un bouquin que je trouvais magnifique. Puis elle est partie. Puis là, je me suis dit, mais t'es qui pour dire, je fais que des livres en sérigraphie finalement. C'est un peu prétentieux cette histoire. Puis du coup, je l'ai couru derrière. Puis je lui ai dit, ce livre, je le fais. Et puis voilà, c'est comme ça qu'a commencé notre collaboration et que j'ai mis un doigt dans le livre offset. Et moi, là, j'aimerais rajouter un petit truc par rapport à justement... Là, j'ai découvert un autre monde. Mon livre sérigraphié, il est en vente ferme chez les libraires, donc j'en vends très peu, évidemment. Mais par contre, j'ai pas de retour. Oui. Et le problème de l'édition, je pense, c'est le retour. Parce qu'en fait, on va faire une bonne mise en place du livre. Ça va être super. On va se dire, waouh, cool. J'ai les sous, je peux peut-être refaire un bouquin. Puis 3 mois après, les retours commencent à arriver. Et ça, c'est une catastrophe. C'est abominable. Donc, c'est vrai que les livres offset, je les fais. J'en fais un deuxième quand le premier est vraiment payé. Puis comme ça, au moins, je sais que je peux de temps en temps faire un livre en offset. Ce qui permet de mettre le pied dans une autre manière de dessiner, dans de la couleur directe, dans du croquis, dans des choses que on peut moins faire en sérigraphie. Donc, c'était une chance de plus. Là, c'était vraiment la chance d'être tombé amoureux de ce bouquin. Et ça permet de faire des beaux livres aussi en offset. Alors c'est clair que pour répondre à ta question des petits éditeurs, grands créateurs, bon je sais pas si on est grands créateurs, mais en tout cas pour moi, j'ai pas le souci de me dire « Ah, est-ce que ce bouquin va marcher ?» Parce qu'en fait, comme j'en fais très peu, il y a une seule année où j'en ai fait 6, plus jamais, c'est beaucoup trop. J'en fais 2 par année et ça demande un tel temps pour le faire que moi j'ai envie de faire des beaux livres, donc tant pis, il y en a tellement des bouquins, on sait plus quoi prendre. Moi j'en fais peu. Par contre, souvent avec des jeunes auteurs qui sont pas connus, mais dont j'admire énormément le travail, donc le fait d'être sérigraphe et éditeur me permet justement ce luxe de me foutre complètement de savoir si ça va être commercial ou non. Ça c'est une petite différence avec, alors ben évidemment j'éponge et puis mon atelier il tourne vraiment par les poils parce que chaque fois que ça marche un peu, ben je fais un bouquin et puis en fait le bénéfice de l'atelier il part dans les bouquins, mais ça on s'en fout, c'est pas très grave. Mais pour l'instant j'arrive encore, alors j'ai pas encore fermé, mais c'est vrai que c'est de la corde raide quand même, malgré le fait d'avoir de la sérigraphie. Alors c'est vrai que quand les jeunes arrivent sur les salons et puis ouvrent les bouquins, mettent le nez dedans, sentent l'odeur du livre et puis commencent à caresser les pages, moi ça me fout la chair de poule, puis je suis déjà très content. Si je le vends en plus, c'est génial, mais déjà ça me fait du bien. Et c'est vrai que moi j'ai un souvenir de gamin où on avait ces magnifiques livres de photos, il y avait Bim, il y avait Crin Blanc, il y avait 2-3 bouquins comme ça avec des photos qui avaient une odeur absolument magnifique, et moi je me mettais sous mon duvet pour lire ces bouquins juste pour avoir l'odeur. Et je pense que mon amour pour les bouquins vient de cette odeur de ces livres qui était très particulière.
Alors tu nous as dit, je reste 2 secondes sur ton cas parce qu'il est quand même assez singulier, que tu vis de ton atelier de sérigraphie et que du coup tu es devenu éditeur. Est-ce que ça veut dire que s'il y avait des difficultés économiques encore plus prégnante, tu pourrais ne continuer que l'atelier en renonçant au livre? Est-ce que maintenant c'est trop tard? Est-ce que maintenant que le virus est pris, tu essaieras de tenir avec les deux en même temps? Est-ce que tu peux renoncer au livre en fait?
Je pourrais jamais renoncer au livre. J'en fais peu. Mm-hmm. J'en fais peu pour pas avoir besoin de renoncer. Puis non, j'adore ça. Et puis c'est vrai qu'il y a, je trouve qu'il y a tellement de jeunes auteurs de talent. Le problème d'un jeune auteur, bon ben moi je vois sur les salons, ils tournent avec leur cartable sous le bras, je peux vous montrer ce que je fais, et puis là il y a bientôt le salon de Montreuil, mais le nombre de dossiers qu'on voit sur un salon, alors c'est vrai qu'à la base je dis tout de suite, je vais pas publier, avant d'ouvrir le dossier, j'avertis déjà.
C'est pour avis, c'est tout.
Voilà, c'est pour avis, mais avant d'ouvrir, pas que l'auteur croit que c'est à cause de la qualité de son travail. Et puis après on parle du travail, il y en a qui me disent, ah ben j'ai pas le temps à perdre, puis ils foutent le camp, puis il y en a beaucoup qui ont quand même envie de montrer, chose qui est bien. Et c'est vrai qu'en discutant quand même avec les auteurs, puisque il y a beaucoup d'auteurs qui circulent par mon atelier, C'est vraiment ce côté de faire le tour des éditeurs avec son cartable, etc., est quelque chose de très difficile. Et en fait, les éditions, c'est arrivé par... on a fait une exposition d'affiches, parce que donc vous avez pu remarquer mon accent particulier. Donc nous sommes Suisses.
Personne n'avait remarqué.
Personne n'a remarqué. Personne attends remarqué. Que je dise des chiffres et puis on va voir. Et puis il y a eu l'anniversaire en 1991, donc 91.
Je vais traduire.
Non, mais c'est pas de la depuis le temps que je viens par là. Il y a eu les 700 ans de la création de la Suisse, et puis il y a eu une exposition d'affiches qui s'est faite pour cette occasion-là. Et la Suisse, toujours aimant toujours les choses, je dirais convenues et sûres, hein, on n'est toujours pas dans l'Europe, c'est pas encore sûr, a demandé à toutes sortes de graphistes très connus en Suisse de faire une exposition d'affiches sur le thème de ce 700e anniversaire. Puis moi, ça m'a énervé parce que pour moi, une commémoration, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend plus loin? Donc j'ai invité à faire une contre-exposition, une vingtaine d'artistes, dessinateurs, graphistes, à faire une affiche sur le même thème, sur 30 invitations, j'ai eu 35 réponses positives, donc on a fait 35 affiches.
Il y en a qui n'avaient pas invité, qui ont répondu quand même.
Oui, et je les ai pris quand même, parce que c'était vraiment bien ce qu'ils faisaient.
Qui étaient rebelles, c'était encore plus ceux qui étaient...
Voilà, c'était vraiment bien. Et en fait, on a été affichés, même à Berne, devant le Palais fédéral, avec ses affiches, etc. Donc c'était, on était tout contents, on s'est dit, voilà, la prochaine fois, on va en faire une autre. L'année d'après, il y avait l'anniversaire, il y avait un truc sur les Amérindiens, on s'est dit, là, on va pouvoir pruner.
Oui, en 92, c'était vaguement les 5 siècles de la découverte.
Voilà,
enfin,
tout à fait. Voilà, donc on s'est dit, voilà encore une occasion. Puis on a commencé à chercher des sous. Moi, j'ai failli là vraiment capoter mon atelier complètement. C'était 3 mois de boulot pour faire. Puis pendant ce temps, bah, évidemment, on fait pas de boulot qui rapporte des sous, mais il faut quand même payer le loyer, les encres, etc. Et puis là, ça a été vraiment le calme plat. On s'est dit, bon, bah, personne n'est intéressé par ce qu'on fait. Puis du coup, on a fait une dizaine d'affiches différentes, et puis on a arrêté là, et puis on s'est dit, on va faire quelque chose de meilleur marché. On va faire un journal rapide, en 3 jours et 3 nuits, c'était un peu le truc que j'avais proposé à des copains auteurs. On a dit, 3 jours, 3 nuits, on bosse, on fait une feuille de chou en sérigraphie, on fait un truc comme ça. Puis chacun m'a dit, mais est-ce qu'on peut travailler à la maison? Et quand ils sont arrivés, ils avaient tellement bien travaillé, j'ai dit, mais on peut pas faire une feuille de chou avec ça, on va faire un livre. Et on a fait le premier drosophile, alors je sais pas si par un heureux hasard quelqu'un a vu un drosophile, mais c'est une revue, un livre d'art, ce qu'on veut, d'un format assez important. Et puis on a imprimé un numéro 0 du drosophile avec les dessins qu'ils ont fait. Ça fait 12 ans, on est au... 8e numéro, mais en fait il y en a eu 9 de paru, moi j'en ai fait 8, et puis j'ai passé le témoin à une ancienne apprentie qui maintenant a repris, et le numéro 8 pourra être visible au salon à Saint-Priest, et vous verrez qu'il y a une jeune relève. Moi je me suis dit, maintenant avec ceux avec qui j'ai fait, bah, ils ont fait leur temps, ils ont commencé à entrer sur le marché, ce serait le moment peut-être d'avoir de jeunes auteurs, donc aussi une jeune éditrice, et puis c'est une ancienne apprentie qui a repris le flambeau, et vraiment moi je suis très fier d'eux, c'est magnifique. Donc voilà, c'est un petit peu les aventures du drosophile. Puis après, ces trucs, fallait les vendre, donc fallait un éditeur, donc voilà, bah, je me suis collé le truc d'éditeur, mais je ne sais absolument pas comment ça marche.
C'est de cette sorte de revue, enfin, dès qu'on dit revue, on s'attend à une périodicité régulière, ce n'est pas véritablement le cas.
Non, pas vraiment.
Non, mais donc, mais on va appeler ça une revue pour simplifier. C'est de la revue, en fait, qu'est née
l'éditions de Rosophie.
La maison d'édition.
Ouais. Oui, parce qu'avec certains auteurs, on a eu envie d'aller plus loin. Moi, il y en a que j'aimais énormément, et puis j'avais envie de faire un livre avec eux. Ben, il y a eu Sylvain Victor, il y a eu Nadia Ravicioni, il y a Tom Tirabosco. Par exemple, dans l'exposition d'affiches, il y avait Zep. Et Zep, à l'époque, Titeuf n'existait pas. Donc il avait un autre personnage anti-militariste. Il existait déjà bien avant Titov. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est, on voit après aussi évoluer tous ces jeunes auteurs, le chemin qu'ils prennent, etc. Et c'est vrai que c'est une place à laquelle je pourrais pas renoncer, je crois pas. C'est les deux choses capoteraient en même temps, mais pas les éditions ou l'atelier.
Les greffes a tellement pris que maintenant c'est tout ou rien.
Ah oui, totalement.
Alors, j'ai pas demandé tout à l'heure à Christian, être, c'était combien de personnes? C'est toi tout seul? Il y a quelqu'un avec toi? Et la maison d'édition proprement dit, c'est combien de personnes?
Au Sourire qui mord, nous étions 3,5.
Oui.
Et quand nous avons arrêté, mon expert comptable, décédé depuis,
Jean-Carré Mort,
m'a dit, écoutez, moi j'ai jamais eu de salarié et je vous conseille vivement, si vous remontez une entreprise culturelle, de faire l'économie des salariés. Et de travailler uniquement avec des gens que vous payez à la pige sur facture, etc. C'est ce que j'ai fait.
Donc
il y avait zéro salarié.
D'accord. À être, il y avait toi.
J'anime la maison.
Oui. D'accord.
Mais j'étais même pas payé.
D'accord, oui, ça, j'imagine.
Et, ou très peu, ou très mal, ou de façon irrégulière.
Très irrégulière.
Enfin, voilà, bon. C'est-à-dire, quand il restait des sous, un exercice sur trois, en général, je me payais. Donc zéro salarié.
Et Drosophile, c'est combien de personnes? Non, je suis désolé de dire des choses aussi crues, mais il faut qu'on comprenne, parce qu'on dit petit éditeur, on dit oui, la petite maison, ils sont 7-8 et tout, c'est souvent nettement moins. Donc pour Drosophile, combien de personnes?
Non, alors Drosophile, c'est moi qui m'en occupe.
Oui.
Et puis la seule chose, c'est que les auteurs, non seulement ils dessinent, ils font un livre, mais en plus ils viennent l'imprimer avec moi gratuitement. Voilà, c'est aussi une combine. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile avec la sérigraphie d'être chacun tout seul dans son coin. Alors bon, ça m'est arrivé de faire des livres sans les auteurs, mais ça fait un peu partie du jeu parce qu'il faut trouver des couleurs, il faut trouver des combinaisons de transparence.
Quand ils sont pas près de chez toi, le temps de la réalisation, ils viennent quasiment sur place.
Oui. Ils viennent et puis ils dorment à la maison et puis on se débrouille quoi.
Alors on va passer à notre troisième larron qui, comme l'indique le nom de sa maison d'édition, a priori ne peut compter que sur lui. Benoît, Jacques, moi je t'ai découvert par un album qui est peut-être pas le premier, tu vas nous dire ça, qui était chez Albin Michel, qui était absolument formidable, donc chez une grande maison, on va dire. Et cet album-là, tout de suite après, enfin, quand j'ai cherché à savoir ce que tu devenais, eh ben, je me suis rendu compte que chez Albin il se passait plus rien et tu étais parti dans l'aventure de l'auto-édition.
Alors, ça datait d'avant déjà.
Ça datait d'avant. Alors, explique-nous ton parcours parce que pour beaucoup de gens, effectivement, c'est tu es un des rares éditeurs qui fait ses livres chez lui en donnant son nom à la maison d'édition, c'est pas si fréquent. Alors, rappelle-nous ton parcours par rapport à l'édition tout court, avant cette maison et avec le passage chez les grands.
Bon, ben bonjour. Je trouve que c'est une tablée très très chouette. D'abord, on a un petit panorama de... petit panorama quand même de la francophonie puisque on a un éditeur français, un suisse et puis je suis le belge du tiercé. Donc on a aussi le plaisir des accents. À la fois dans ce que j'entends dire par les deux Christians. C'est Christian aussi, ton prénom. Je reconnais évidemment beaucoup de choses qui font partie de mon vécu également. Déjà cette sensation très forte d'équilibre, de sur le fil. J'ai créé il y a des années un espèce de petit logo, on va dire, pour représenter un petit peu mes publications, qui est un personnage qui tient en équilibre sur un monocycle. Donc c'est l'idée que s'il arrête de circuler, de bouger, il se casse la figure. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu comme ça que ça marche. Alors moi, j'ai commencé, en fait, il y a longtemps, et bien avant ce livre chez Albin, à une époque où je vivais à Londres, où j'étais en fait essentiellement dessinateur pour la presse, et où j'avais grand désir, jeune dessinateur, de publier des livres, parce que ma formation, à la base, c'est plutôt les arts visuels et le graphisme. Et j'avais fait un parcours assez bref dans un gros studio de design graphique londonien qui m'a à la fois fait découvrir tout l'ensemble de la chaîne graphique, comment d'une idée on en fait un objet imprimé, multiple, etc. Et en même temps, ça m'avait fait aussi découvrir toutes les techniques qui tournent autour de la fabrication d'un livre, les techniques de mise en page, l'utilisation de la typographie et puis la connaissance de l'imprimerie. Et les premiers livres que j'ai souhaité faire publier, très naïvement, j'étais voir des grosses maisons d'édition et à l'époque des maisons d'édition anglaises, m'ont toujours refusé mes projets sur une base qui est restée un petit peu quelque chose qui, à partir duquel j'ai peut-être construit une philosophie de travail, c'est-à-dire que on me disait chaque fois, on comprend pas à qui s'adressent vos projets, on sait pas exactement si c'est du livre pour enfants, du livre pour adultes, du livre d'humour, du livre de dessin, du dessin contemporain, du livre d'artiste, etc. Et j'ai très vite réalisé qu'en fait les maisons d'édition fonctionnent effectivement avec des critères qui d'après moi sont des critères liés à l'idée de commerce, où il faut cibler, et ce sont pas nécessairement même des livres dont on parle, mais des produits qui s'adressent à des tranches d'âge, etc., etc. Or, comme moi, je suis beaucoup plus du côté, on va dire, de ce qui serait la création du livre, de l'intérêt d'utiliser le livre comme surface pour créer des choses, j'avais évidemment aucune envie de m'encombrer de ces notions de cases, de petites boîtes comme ça bien précises. Et c'est ce qui m'a donné envie, plutôt que d'essuyer des refus continuels et de risquer d'y perdre la foi et l'enthousiasme, de tenter de publier à compte d'auteur, on va dire. Et j'en profite pour simplement vous dire que, de ce point de vue-là, je ne me considère pas du tout comme un éditeur à partir du moment où je ne publie personne d'autre que mon propre travail. Donc, mon travail d'édition serait plutôt à concevoir comme une prolongation, une extension de mon travail de création qui ne passe pas que par l'invention et la création de livres. Et donc, le premier livre que j'ai publié, c'était publié et commercialisé, on va dire, c'était en 89, c'était à Londres, dans un contexte très particulier, parce que, comme vous le savez peut-être, il y a, pour ainsi dire, plus de libraires indépendants en Angleterre maintenant. À l'époque, il n'y en avait déjà quasiment plus. Donc, c'était un univers beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup, beaucoup plus dur pour faire passer ce genre de production un petit peu artisanale dans un réseau de libraires qui était déjà très 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 lié au libéralisme à l'américaine, avec les grandes chaînes style Fnac, enfin là-bas c'est Waterstones et compagnie, et où on a du mal quand on va dans une librairie à savoir qui est, voilà, et au prix libre en plus. Mais bon, à l'époque, c'était une échelle tellement microscopique.
10 ans de Thatcher et pas de Jack Lang, ça faisait beaucoup.
Voilà. Et j'étais en plein dans ces années-là. Mais il se trouve que ce premier livre a super bien fonctionné. J'en avais fait 1500 exemplaires, ce qui pour moi était absolument énorme. Mais il y avait beaucoup dans l'objet lui-même, et ça c'est quelque chose aussi auquel j'ai toujours beaucoup tenu et j'y tiens encore énormément. Il y avait énormément d'investissements, on va dire, à la fois en manutention de ma part, parce que tout ça se faisait tout seul. Mais pour en faire un objet qui n'ait pas l'air d'un objet simplement de commerce, quoi, que ça soit, qu'il y ait cette espèce d'angle un peu artisanal. C'était un livre qui en ce moment est épuisé, mais que j'ai réédité à de nombreuses reprises et qui va ressortir un jour ou un autre, qui était enveloppé dans un bout de carton ondulé, lui-même imprimé avec une sérigraphie dessus, et le carton était ficelé, donc fermé, ça faisait un espèce de paquet un peu mystérieux, et le nœud
La SNCF supporte plus, hein, les paquets.
et le nœud était scellé avec un cachet de cire rouge. Donc l'objet était déjà à une échelle assez conséquente au niveau du tirage, quand même un objet avec un aspect très livre d'artiste. Et ça a super fonctionné. Et ça, donc, pour moi, ça m'a à cette époque-là convaincu de cette idée que finalement ces notions justement de cases, de d'étiquetage des objets livres comme s'adressant à tel ou tel public, en fin de compte, quand on est du côté du consommateur, on s'en fout complètement, on va vers les choses qu'on aime bien, et c'est ce qui fait que en tant qu'adulte, on peut s'acheter pour soi-même un livre supposément pour les 3 à 6 ans ou ainsi de suite. Et donc ça, j'ai trouvé une démonstration absolument formidable et très enthousiasmante. Du coup, j'ai réitéré l'expérience et j'ai de cette manière produit 3 livres à l'époque anglaise avant mon arrivée en France. Et donc, fort de ce petit ce micro capital de livres d'une part et aussi de sentiment que ça pouvait marcher. Je me suis retrouvé alors dans la société française que je connaissais pas, très franchement, je connaissais absolument pas le fonctionnement. Je me suis installé en lointaine banlieue parisienne et j'ai commencé à faire le marchand de tapis, c'est-à-dire je suis allé voir les libraires en faisant du porte-à-porte avec un sac avec mes bouquins. Et ça, de nouveau, j'ai trouvé que c'est une expérience absolument fabuleuse parce que là où je m'attendais à peut-être rencontrer beaucoup d'incompréhension ou de sentiment de qui c'est ce type qui vient avec ces trucs. Au contraire, bon, non seulement j'ai eu l'impression que les libraires étaient habitués à ce type de démarche, ne fût-ce que par la démarche des représentants des grandes maisons, mais aussi on trouvait tout de suite, j'ai réussi, on va dire, en plusieurs années, mais à me créer un petit réseau de libraires intéressés par cette démarche un peu particulière du type qui fait ça tout seul, de la sensation très forte que les livres étaient quand même à la fois soignés et particuliers, mais en même temps innovants, différents, abordables de prix aussi, parce que ça c'est quelque chose auquel j'ai aussi toujours beaucoup tenu. Et donc, de fil en aiguille, l'expérience, s'est mise en place sur une première dizaine d'années. Et puis, par la suite, les choses se sont compliquées. Alors, c'est pour ça que je trouve très émouvant d'entendre Christian Bruel raconter son expérience à lui, parce que j'ai l'impression, moi, de fonctionner comme dans un laboratoire où, à la fois, ce que je fais est de taille microscopique, mais en même temps, avec des conséquences qui sont à l'échelle des grandes maisons d'édition. C'est-à-dire que maintenant, mon nom a d'abord tourné, et puis il s'est trouvé qu'il y a eu cet événement très particulier dans ma vie, il y a 2 ans, qui a voulu que j'obtienne le Baobab à Montreuil pour un livre, et qui d'un seul coup a propulsé cette expérience qui était dans une échelle, on va dire, que j'arrivais à faire fonctionner tout seul, à un niveau qui est, on va dire, à la fois une espèce de succès fabuleux, et en même temps, un succès qui me fragilise énormément. Parce que d'un réseau qui comptait bon an mal an 30 à 40 libraires depuis 10 ans, subitement, il y a 2 ans, il y a 500 libraires qui ont frappé à ma porte pour avoir ce bouquin, ce Baobab. Et donc j'ai dû faire face à cette espèce de demande incroyable, et puis subitement faire face aussi à... Sur ça, ça m'intéressait beaucoup ce que tu disais par rapport à la fragilité aussi économique, c'est-à-dire que moi, c'est exactement comme pour toi, ça a toujours été... Les recettes d'un livre sont réinvesties dans le livre suivant, et tant qu'on est dans des volumes relativement modestes, on sait où on va. On peut même avoir un accident, comme ça m'est arrivé, un ou deux accidents, mais on peut redresser la barre. Mais là, par exemple, moi, j'ai une quantité d'argent énorme qui est gelée dans des réimpressions de ce livre, de ce fameux Baobab, en sachant qu'à chaque réimpression, le risque pour moi, il reste entier. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai vendu là maintenant plus de 10 000 exemplaires de ce livre, ce qui pour moi est du délire total, hein. Il faut vous imaginer que ces 10 000 bouquins, je les ai empaquetés et tout seul, avec un nombre insensé de paquets maintenant, parce que ça c'est la crise oblige, de paquets de 1 exemplaire. Donc ça fait des volumes de travaux comme ça très très étranges. Très... Alors la poste, il m'aime beaucoup dans mon village. Là, on me regarde avec un grand sourire. Mais tu vois, c'est compliqué. Et quand je dis que le risque, il est chaque fois entier, c'est-à-dire que quand je décide de réimprimer parce que j'arrive en fin de tirage, il n'y a rien qui garantit que ce que je réimprime, je ne vais pas rester avec ces bouquins sur les bras, parce qu'un jour ou un autre, ça va s'arrêter.
La rotation des ventes n'est plus la même.
Voilà. Et alors, avec d'autres problèmes qui me guettent. Mais c'est en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas du tout pour poser en faux par rapport à ce que Christian dit, parce que cette fragilité, vraiment, je la ressens très fort. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi la beauté de l'histoire, c'est cette fragilité, justement. C'est que rien n'est solide, et que dans cette absence de solidité, le besoin d'invention, la capacité à se remettre en question, à réinventer les choses, elle est un des éléments absolument essentiels, sans quoi on disparaît tout de suite si on arrête cette réinvention, quoi.
Oui, Christian, avec...
avec, c'est ça qui nous différencie, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, avec le fait que quand on est édité... Oh. J'ai eu un fantasme, j'ai cru que vous alliez vous battre là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous battre dans l'allée. J'ai failli oublier ce que je voulais dire. Ça y est, ça revient. Oui, l'une des grandes différences, c'est que quand on est éditeur d'un peu plus que soi-même, moi j'ai publié pas loin de 200 personnes dans mon métier d'éditeur. On est aussi responsable quelque part d'eux. Et ça, c'est par rapport à la grâce dont tu parles. Et il y a aussi une sorte de responsabilité économique, etc. C'est-à-dire que j'ai des vieux auteurs. C'est idiot, mais j'ai des vieux auteurs et parfois je m'en veux de pas être exactement à jour avec la GSA parce que ça va faire partie de leur calcul de retraite. Bon, et, c'est trivial, mais ça fait partie aussi du plaisir d'éditer que d'avoir un portefeuille, comme disent les confrères, un portefeuille d'auteurs et des gens avec qui on noue des relations qui sont des relations amicales, qui sont des relations idéologiquement fortes aussi, parce que les livres, ça a des contenus aussi, c'est des formes, mais ce sont aussi des contenus, et ces contenus surtout, enfin moi j'ai toujours publié plutôt en direction de la jeunesse, donc avec ce qui a été appelé tout à l'heure une cible assez particulière, c'est-à-dire que de faire des livres qui sont accessibles aux enfants, mais qui se gardent constamment d'être des livres pour enfants, bon, c'est une espèce de finasserie dans laquelle je suis installé depuis 35 ans, et là aussi il y a de l'équilibrisme, voilà. Mais je voulais simplement rajouter ces auteurs qui sont des auteurs au sens large, hein, illustrateurs, photographes, j'ai travaillé avec plasticiens, etc. Mais bon, ces gens-là, ils ont une ils existent aussi, quoi. Mais ils apparaissent pas sur l'organigramme de la maison, au sens, mais
c'est pour ça que moi je voulais insister sur cette notion de ne pas me sentir éditeur dans ce rapport-là, et qui est par ailleurs est quelque chose que j'admire, hein, mais je n'ai pas, bon, il se trouve que par une espèce d'ambiguïté je reçois des manuscrits ou des propositions de choses à publier, parce que les gens ne voient que les livres et savent pas le fonctionnement qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ce fonctionnement qui est le mien est complètement... Je n'ai pas ces responsabilités, hein, je reconnais.
C'est ce qui participe du miracle de ton Baobab, parce que tu es le seul auteur auto-édité qui a eu le Baobab. Parce que finalement, et on vient d'avoir la liste rendue publique des 10 livres qui sont en course pour le Baobab de cette année, ce ne sont que des maisons qui existent et qui éditent des auteurs qu'ils choisissent, qui passent par des comités de sélection, des choses comme ça. Mais donc, que ce soit Mémo, Motus, Gallimard, les grandes personnes, enfin je pense à ceux qui sont encore en cours, Cyros, ce sont des maisons d'édition qui ont des auteurs, illustrateurs, enfin des créateurs à leur catalogue. Toi, t'es dans l'auto-édition. C'est pour ça qu'on a tous été assez bluffés quand t'as eu le Baobab, parce que il y a une grande partie de la critique, si on peut parler de critique en jeunesse, ça sera un autre débat, enfin, les gens qui suivent de près ce qui se fait en jeunesse, qui avaient énormément d'estime pour ton travail, mais qui étaient convaincus que ça ne t'arriverait jamais, à cause de cette règle du milieu. Et donc, effectivement, c'est un cas un peu à part, parce que t'es vraiment totalement dans l'auto-édition. C'est pas parce que de temps en temps, on a d'autres auteurs que Benoît Jacques à ton catalogue, généralement, c'est des Benedetto Gia, comment... Ouais. Mais tout le monde aura compris qu'il y avait des espèces d'astuces un peu bizarre et toujours linguistique derrière tout ça. Alors, on a fait un premier tour de vos trois situations et on s'aperçoit que finalement, à chaque fois, c'est des maisons où quasiment il y a une personne et une seule. Hein. On a expliqué quels étaient les cadres, il peut y avoir des stagiaires qui après peuvent reprendre dans leurs mains telle ou telle aventure. Christian, tu es passé pour ta deuxième vie d'éditeur au simple pige, hein, les gens que tu payais au coup par coup. Bah, Benoît, tu es tout seul, donc c'est encore plus simple.
Un avocat, un expert comptable.
Voilà.
Et puis un maquettiste.
D'accord. Mais donc très très peu de personnes. Or, quand on parle de petite édition, généralement c'est pas aussi minimaliste. Beaucoup de maisons qui sont des petites éditions sont quasiment centrées sur leurs créateurs qui les représentent et tout. Mais parfois on a des petites maisons qui malgré tout ont une petite équipe. Alors, est-ce que vous vous sentez les uns et les autres des parentés avec des maisons d'édition de petite taille, alors que vous êtes quasiment sur des maisons d'édition uniques, quoi, sur vous-même. Entre vous, visiblement, ça fonctionne, car vous avez des aventures extrêmement comparables, sinon communes. Quand vous avez affaire à des maisons d'édition, je pense à un cas, moi, qui m'avait beaucoup perturbé. J'en ai pensé beaucoup de mal au début, j'en pense pas forcément beaucoup de bien maintenant, mais je suis beaucoup moins dur qu'à ses débuts. Quand la maison Sarbacane est née, j'avais l'impression que c'était une maison, je le dis rapidement, et sans doute que je serais démenti par des gens qui soutiennent les publications de Sarbacane, que cette maison était née en demandant à tous les gens un peu connus, est-ce que vous n'auriez pas un projet en attente chez vous qu'on vous aurait pas encore pris? Parce qu'en l'espace d'un an, Sarbacane a eu, je vais donner des noms un peu au hasard, mais un Bruno Hetz, des auteurs comme Marie-Sabine Roger pour les textes, enfin, tous les gens qu'on connaissait ailleurs sont venus dans le catalogue de Sarbacane. Alors bien sûr, c'est une nouvelle maison, donc une petite maison, avec pas beaucoup de gens. Mais la façon de fabriquer un catalogue, pour moi, ressemblait assez à du vampirisme. Alors que, mis à part Benoît qui travaille tout seul, vous avez, vous, des auteurs, mais des auteurs que vous voyez grandir, que vous accompagnez. À la limite, quelqu'un comme Juliette Binet, qui est actuellement chez Autrement, et dont le dernier bouquin est une pure merveille, Le Cousin, je vous le recommande, parce qu'il n'est pas dans les 10 du Baobab, et je trouve ça scandaleux, mais c'est comme ça. Il y a des maisons qui font le pari de trouver de jeunes créateurs, de jeunes créatrices, et qui les accompagnent, qui les aident à grandir, qui les aident à aller toujours plus loin. Alors moi, j'ai l'impression qu'on peut aussi être une petite maison, très provisoirement, parce que le but de ces petites maisons, c'est de devenir très vite des grandes, où on n'a pas cette logique-là. Donc, comment est-ce que ça se passe quand vous rencontrez, et ce sera le cas à Saint-Priest demain et après-demain, puisque le salon a lieu samedi et dimanche, vendredi, samedi, dimanche, même vendredi, samedi et dimanche, donc 3 jours et pas 2, vous allez être mis de plein pied avec des petites maisons qui n'ont pas toutes les mêmes, les mêmes modes de fonctionnement que vous. Comment ça se passe? Est-ce que, de temps en temps, vous percevez ceux qui veulent être des grands et qui ne sont pas sur la logique de créateur qui est celle que vous incarnez? Quels sont vos contacts avec vos collègues qui ne sont pas de grande taille?
Qui veut y aller?
Christian.
Non, mais l'autre Christian.
Bon, alors ce sera l'autre Christian. Moi, je trouve qu'un salon comme Saint-Priest, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que il y a des fois où on se sent un petit peu seul vu qu'on bosse beaucoup, on n'a pas le temps de se voir, on n'a pas souvent on se croit sur des salons, des festivals, on se dit ah ouais il faut qu'on fasse un truc ensemble, et puis on est repris par la vie qui va quand même un peu trop vite, et de se retrouver tous ensemble où on a tous un petit grain quand même, je veux dire. Faire de l'édition dans une... Non, mais je pense que ça fait beaucoup de bien, parce que tout à coup, on se sent plus tout seul. Le gars qui fait tout seul son truc dans son coin, puis tout d'un coup, on se rend compte que le château de Saint-Priest, il est habité par plein de gens qui ont quand même le feu sacré, qui font des trucs. Il y a des bouquins qui sont même peints à la main. Il y a des jeunes qui sortent des écoles, qui s'auto-éditent. Il y a tout un foisonnement. Pour moi, c'est un des salons où il y a peut-être le plus de beaux livres au mètre carré. Je trouve absolument extraordinaire. Et c'est vrai que, pour moi en tout cas, là je parle pour moi bien sûr, quand je rentre de Saint-Priest, ça me donne envie de bosser. Ça me donne envie de faire un livre, ça me donne envie de faire quelque chose. Alors que si je vais à Angoulême, j'y vais plus d'ailleurs depuis des années, je reviens, je suis dégoûté, on n'a pas le temps, personne n'a le temps, des gens même qu'on connaît, avec qui on s'entend bien. Alors il y a quelques salons magiques, comme celui de Bastia aussi, qui est un salon magique. Il y en a deux, trois. Et puis il y a quand même ce salon de Montreuil où il se passe quand même des choses assez, assez géniales, beaucoup mieux qu'Angoulême, moi j'ai oublié. Donc c'est vrai que, oui, moi je crois qu'on se trouve des affinités avec toutes ces petites maisons d'édition, même si on n'a pas les mêmes fonctionnements, on a quand même les mêmes envies, ce qui est celle de faire des beaux livres et puis d'essayer de faire des livres qui ne soient pas complètement plouques.
Christian, qui ne voulait pas parler, finalement opine du chef.
Alors, oui, mais moi je suis un idéologue, hein. Et je fais partie des éditeurs idéologues, donc comment dire ça? Autant je peux avoir un sentiment confraternel de principe, autant je suis chiant avec le catalogue des autres. C'est-à-dire que je le passe à la moulinette, le catalogue des autres. Je le questionne, je me demande pourquoi. Je me demande parfois, je me dis parfois à quoi bon. Je me dis parfois j'ai des jalousies féroces. quand ça me fait mal à l'intérieur, je dis, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'es con d'avoir pas eu d'idée avant, quoi. C'est trop bien, cette idée-là. Bref. Donc, moi, à la fois, je partage cette confraternité de principe, et en même temps, je suis à nouveau très idéologue. C'est-à-dire que je considère que c'est une vraie chance, mais, en fait, on est à la même tribune, mais on fait pas exactement le même métier de la même façon. C'est-à-dire que, dans la mesure où moi j'ai toujours considéré qu'il fallait quand même mettre le pied dans la porte de l'industrie du livre. Et j'ai un distributeur, qui est Harmonia Mundi, qui travaille avec des grandes maisons d'édition, des petites maisons d'édition, qui fait un chiffre d'affaires colossal avec le livre. Il en fait plus avec le disque, enfin, ou à peu près autant avec le disque. Mais donc, j'ai mis le pied dans la porte de ce point de vue-là. Donc, j'ai toujours voulu jouer ce jeu-là. Et si on joue ce jeu-là, on est forcément... comment dire ça ? J'entends ce que tu dis sur Sarah Bacan, et pendant que tu disais ça, je me souvenais d'avoir lu dans Livre Hebdo, une revue que vous connaissez, l'une des premières interviews de Thierry Magnier quand il est devenu éditeur. Et Thierry Magnier avait cette phrase, un jour je vais lui ressortir, pour lui faire du mal. Il a eu cette phrase que je trouvais enfin, de mémoire, il disait en gros, ne me demandez pas qu'est-ce que je veux publier, j'en sais rien. C'est dans quelques années que je vous dirai quelle était ma ligne éditoriale. Ça m'avait scié ça. J'ai gardé l'article, hein, parce que je suis un archiviste policier de ce genre de choses. Staline n'est pas mort. Non, mais il faut avoir des choses comme ça dans son coffre pour un jour faire du chantage. Mais pour moi, un éditeur, c'est aussi quelqu'un qui défend un bout de gras. Non pas de façon concurrentielle, même s'il est malgré tout sur un marché concurrentiel, mais qui considère... Moi, il y a un truc dans ma vie d'éditeur dont j'ai jamais pu me passer. C'est-à-dire que j'ai dû publier 200 et quelques bouquins. Et sur ces 200 bouquins, enfin, de temps en temps, je mettais sur le sol tous ceux que j'avais déjà publiés, puis il y avait un trou au milieu. Et j'avais toujours l'impression que le dernier qu'on venait de publier, quand on le mettait pile poil, il avait toujours existé. Il était nécessaire, il était là parce qu'il pouvait pas ne pas être là à ce moment-là. Enfin bon, tout ça, c'est parfaitement idéologique et c'est complètement mégalomane et ça n'a pas de sens. Mais ça en a quand même. Voilà. Donc, défendre le bout de gras, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on publie pas uniquement pour le plaisir de publier. On publie aussi pour faire avancer le schmilblick, c'est-à-dire pour s'inscrire. Enfin, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'un album, moi, je publie des albums. Un album, normalement, il me parle de moi, il me parle de lui. Il me parle du monde, quoi, en gros. Bon, mais j'aime bien qu'un album me parle de lui. C'est-à-dire que quand je vois un album, j'ai l'espèce de réflexe sémiologique de me demander d'où il sort, celui-là. C'est-à-dire, quelles sont les images mères, d'où ça vient, comment il s'inscrit dans la chaîne historique de production des albums, comment il fait réseau avec... bon. Et donc, moi, je regarde le catalogue des confrères avec ces lunettes-là. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que quand on fait des albums, il peut y avoir que des images et des textes sous-jacents, mais il y a aussi des articulations de textes et d'images. Et moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Et non seulement il y a des articulations de textes et d'images, mais dans lesquelles les images ne sont pas des illustrations. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans illustrare, on n'est pas dans mettre en lumière, on est dans l'icône. On est dans les images qui sont là pour prendre une part importante de la machine à faire du sens. Et le travail... de l'éditeur, parce que ce travail-là, il est aussi important, c'est d'obliger les auteurs de texte à travailler sur le texte aussi. C'est-à-dire à faire qu'il y ait un travail de la langue qui soit visible et que l'un des grands problèmes de l'album contemporain, je trouve, c'est qu'il est esthétiquement sublime, mais il est littérairement un peu indigent. Notamment sur tout ce qui est un travail de la langue qui serait un peu moins 19e dans ce que ça peut avoir de scolaire, quoi.
Une précision, tu as dit que tu ne faisais que des albums, c'est pas complètement vrai, puisque tu as eu
des ouvrages théoriques aussi.
T'as eu The Rough Theory, oui. qui finalement avait un lien direct avec les albums. Oui. On a eu des réflexions sur Claude Ponty, sur Anthony Brown. Donc, tu t'engageais aussi dans l'idée d'ouvrir une bibliothèque pour comprendre comment lire l'image, ce qui est peut-être ton côté idéologue, mais en tous les cas, ça permettait d'avoir, enfin, j'y pense, parce que Sophie van der Linden, qui a été très prof de toi,
que j'ai publié, ouais, la première.
Tu as publié, actuellement à la tête de la revue Hors Cadre, qui veut tous les 6 mois proposer justement des façons de questionner l'album, essentiellement. Pas forcément que celui pour la jeunesse, mais grosso modo, c'est essentiellement des albums jeunesse, et qui continue en quelque sorte le sillon que tes ouvrages, et donc il n'y avait pas que des albums, avaient lancé il y a quelques années. Donc c'est pas perdu. Ce que je veux dire, c'est que les graines que du Sourire qui mord, avec Nicole Clavelou, que tu as réembauché, si je veux dire, pour des piges chez Être ou autre, ou Wolf Elbruch, dont tu as été l'éditeur attitré, ça continue. Je veux dire, donc peut-être que Être va tirer sa révérence le 31 décembre, mais globalement, cette histoire-là...
Mais vous ne serez pas débarrassé de moi.
Non, non, mais elle est plus...
Parce que voilà, elle est plus en train de travailler sur un essai critique sur l'album, par exemple.
Voilà, voilà. Donc une occasion de te faire revenir ici, là aussi.
Je suis déjà venu ici. Je suis venu il y a peut-être une bonne dizaine d'années, peut-être, à l'invitation de Bernadette Sebel.
On ne dénonce pas les gens qui te font du bien. Benoît, donc restons toujours sur ce cercle. Bon, alors Saint-Priest, tu connais déjà, puisque tu étais là dès la première édition. Bastia, tu connais aussi, puisque tu as déjà été et tu vas y retourner dès l'année prochaine. Mais par rapport donc à ce que je disais de ces petites maisons, est-ce que tu as le même sentiment de confraternité, ou est-ce que tu as le sentiment, étant dans l'autoprod total, d'être quand même un cas complètement unique, ou est-ce que tu as croisé des gens qui vivaient leur métier de la même façon que toi?
Ben, moi, je me suis toujours dit qu'un des intérêts dans cet aspect-là de mon expérience, enfin de cette aventure-là, mais qui est pas la seule que je mène, mais c'était de durer. Tu disais défendre un bout de gras. Moi, dans cette idée-là, vraiment, puisque finalement j'ai le sentiment que pas juste par le contenu de ce que je fais, mais par la forme que je donne à ce que je fais, il y a l'idée de résister quand même à un type de vision d'un monde, hein, d'un monde de l'édition, mais d'un monde tout court, je veux dire, d'un monde qui serait tellement obsédé par le commerce que tous les projets qui sont conçus sont conçus avec cette optique-là, vendre. Bon, il y a quand même dans cette démarche qui est la mienne, l'envie de résister à ça. Quand tu citais Sarbacane tout à l'heure, évidemment, moi, je me sens très, très fort aux antipodes d'une aventure comme ça. Et de nouveau, c'est pas un jugement de valeur sur le fait qu'il faut et que c'est bien qu'il y ait des gens qui font ça, puisque ça fait vivre beaucoup d'auteurs et de créateurs. Mais dans cette démarche que j'ai le sentiment de, comment dire, pour laquelle je paye un prix qui est quand même lourd, hein, c'est le prix de cette liberté. Il y a évidemment l'idée que, ben, à l'intérieur de cette liberté même, je veux être complètement libre. Et c'est d'ailleurs l'explication du pourquoi, après maintenant un peu plus de 20 ans que je fais cette histoire d'auto-édition, je n'ai pas décidé, comme on me le propose assez souvent, hein, maintenant des éditeurs qui ont vu que ça marchait, entre guillemets, viennent souvent me proposer de travailler pour eux. Et si je ne le fais pas, ou si je le fais de manière extrêmement ponctuelle, et généralement c'est pas tout à fait satisfaisant pour moi, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans mon envie d'embrasser l'objet livre comme une espèce d'objet d'expression totale, rentre là-dedans, pas simplement l'idée de montrer des petits dessins et de raconter une petite histoire, mais de faire un objet, c'est-à-dire que cet objet soit pensé dans sa globalité, comment il va être imprimé, quelle va en être la mise en page, la typographie. Voilà, les papiers, l'odeur, mettre son nez dans le livre. Si je vais sur chaque calage machine de mes bouquins, c'est en partie pour me shooter à l'encre comme Christian à côté de moi, parce qu'effectivement, tous ces éléments, on les oublie énormément maintenant. J'entends beaucoup de créateurs et de gens que j'admire beaucoup, qui sont parfois un peu désabusés après un certain nombre d'années de fonctionnement dans le monde de l'édition, parce que bien souvent il y a ce sentiment que quand on a décidé qu'on va leur publier leur livre, ils en sont un petit peu dépossédés, c'est-à-dire que on l'introduit dans telle ou telle collection, etc., etc. Et donc pour moi, disons que bien sûr que Saint-Priest, c'est un petit peu un cas particulier, parce qu'il y a énormément de gens qui font de l'autoproduction, justement, mais qui très souvent ont difficile, très rarement en vivent, et encore plus rarement tiennent le coup longtemps. Enfin, je veux dire, dans ce sens...
Ça alimente parfois le catalogue des maisons plus importantes.
Voilà.
Avec des livres quasiment d'artistes,
voilà.
Ils font deux, trois trucs, et après...
Et puis bien souvent, on les retrouve... Voilà. Et ce qui n'est absolument ni... Non, pas du tout. C'est absolument normal. Et je pense que souvent, des gens viennent vers moi me demandant, est-ce que vous pensez que j'aurais intérêt à éditer ce truc-là moi-même, parce qu'aucune maison d'édition n'en veut. Et à chaque fois, je dis... écoutez, le problème, c'est pas créer, en fait, c'est pas inventer. Le problème, c'est après. C'est quand un beau jour, un camion arrive avec une palette de cartons de livres et qu'il faut aller le vendre, on n'est plus du tout dans un métier de créateur, d'inventeur, etc. On est dans des choses très pragmatiques, souvent...
Ouais, qu'il y a tous ces métiers-là, quoi.
Voilà, qu'il y a tous ces trucs après qui sont pas spécialement drôles, qu'il y a une gestion administrative qui est pesante, qui est difficile parce que les aléas économiques sont très complexes. Ce que je trouve d'intéressant, enfin moi vraiment, j'ai évidemment pas de recul, mais je me rends compte que pour des gens comme vous ici et pour les gens dans le monde de l'édition, cette aventure d'auto-édition, elle représente déjà en elle-même une espèce de c'est comme si on arrivait à regarder comment ça fonctionne, parce que mon fonctionnement en réalité, il est à peu de choses près le même que celui des grandes maisons. Les problèmes sont les mêmes. La distribution, la diffusion.
Il faut passer par les mêmes étapes.
Voilà, les étapes sont...
Pas avec le même produit et pas avec
voilà.
La même carte de référence.
Voilà. Mais du coup, alors, simplement pour revenir sur cette idée de comment je me sens par rapport au monde de l'édition, disons que moi, j'essaye de pas trop regarder ça parce que, de nouveau, je gère mon petit truc. Je le fais comme je pense que c'est intelligent de le faire pour moi. Mais là où j'ai besoin de me ressourcer, on va dire, c'est beaucoup plus dans des choses qui sont complètement déconnectées de l'édition en soi. Ce serait plutôt musique, cinéma, exposition, artiste, je ne sais pas. Mais je n'ai pas encore vu un éditeur, on va dire, qui me fasse me dire « Ah, dis donc, tu ferais vraiment bien d'arrêter de te battre comme tu le fais ». Et de te rallier à la cause de telle ou telle maison d'édition, parce que eux ils vont faire tes bouquins encore mieux que toi en plus. C'est pas de la fausse prétention ou de la fausse modestie, mais je sais que les livres tels que je les fais moi sont tellement tels que je les voudrais que je ne pense pas que je pourrais trouver ailleurs satisfaction. Et les fois où je les fais, j'ai pas été content d'ailleurs.
Une question que je voulais vous poser à tous les trois, puisque ça va forcément vous arriver demain, vendredi, samedi, dimanche. Vous l'avez déjà évoqué à propos de Montreuil. Souvent, quand un éditeur est sur un salon, on vient le voir avec des projets. Et je voulais savoir si les gens qui venaient vous voir avaient l'intelligence de savoir à qui montrer leurs projets. Parce que dans le monde de la littérature, on est souvent entouré de gens qui disent « Ah, mais moi j'ai écrit un livre, j'enverrai bien à Gallimard. » Est-ce que tu sais ce que Gallimard édite ? Parce que montrer n'importe quoi à n'importe qui, c'est forcément aller à la porte qui va vous claquer dans la gueule. Et en même temps, ça peut être très impressionnant d'aller voir du temps où il était aux commandes de Vertical, Bernard Wallet, maintenant donc Yves Pagès, en disant, vu ce qu'il dit de Vertical, je pense que c'est pour eux. Mais donc il y a une vraie intelligence à savoir à qui on montre ce qu'on fait. Alors, pour Benoît, c'est réglé, puisqu'il n'édite personne que lui-même. Mais malgré tout, il peut regarder et on peut lui montrer des choses en fonction de qui il est. Est-ce que, globalement, le chemin que vous avez tracé les uns et les autres vous met à l'abri des albums idiots qui trouveront leur place n'importe où? Ou est-ce qu'au moins on vous montre des choses qui ont des chances de vous intéresser, même si vous ne les prenez pas? Mais est-ce que globalement il y a cette espèce de tri qui est fait de la part de ceux qui vous dérangent? Ou qui ne vous dérangent pas, mais enfin qui vous sollicitent?
La question est complexe parce qu'elle est... Il y a plein d'entrées. On prend ce qu'on veut, c'est un libre service. Comment dire ça? Bien sûr qu'on reçoit n'importe quoi. Enfin, moi, en tout cas, je reçois, enfin, sur les salons, mais sinon, je reçois entre 600 et 800 propositions par an.
Est-ce qu'il qui passe par la poste, souvent, c'est un peu n'importe quoi.
Et le pire, c'est Internet. Le pire, c'est Internet. Alors, les dossiers par Internet, les nouvelles techniques, c'est vachement bien. Mais alors, c'est...
Ah bah...
Non, pas fort. Enfin, bon, ils se débarrassent, c'est un peu méchant de penser ça. Mais on reçoit des dossiers très lourds, déjà. Bon, ça vous empoisonne la vie. Et c'est très compliqué, parce que, bon, effectivement, d'un clic, maintenant... au moins, avant, on était protégés par les frais postaux, si j'ose dire. C'est un peu cynique, mais on était au moins protégés par les frais postaux. Bon, ceci étant, j'ai publié, personnellement, au moins une quinzaine de bouquins qui m'ont été proposés comme ça, de manière spontanée, y compris à Montreuil. Une Polonaise qui s'appelle Gosia Machon m'a apporté une image et je lui ai dit, on a eu du mal à parler parce qu'elle ne parlait qu'anglais, moi mon anglais n'est pas un aimant, c'est moins qu'on puisse dire, et je lui ai dit je veux faire un livre avec vous, mais elle ne comprenait pas du tout ce que je voulais, puisqu'elle n'avait que cette image-là, enfin dans son dossier, que cette image-là qui m'avait plu. C'est le, je ne sais pas si tu vois, Jeux étranges.
Oui.
Bon, cette Polonaise, bon, on s'est marié à Montreuil sur une seule image en disant il faut absolument qu'on se revoie, on va travailler ensemble, etc. Après, ça a été un peu compliqué. Mais en t'écoutant, je pensais à Olivier Douzou, qui racontait, Olivier Douzou, qui a été pendant très longtemps le responsable de jeunesse sur Rouergue.
1995 à 2009.
Voilà, à peu près. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc les livres du début du Rouergue, c'était des carrés, etc. Et, voilà. Et on recevait, les uns et les autres, des livres carrés à la tonne. C'est-à-dire que on sentait bien que dans les écoles d'art, les artistes se calibraient, formataient leur truc en se disant ce sera peut-être pour le Rouergue. Et puis comme le Rouergue, on avait jusque-là des livres carrés qui se ressemblaient, parce qu'en plus, c'est aussi dangereux d'aller voir quelqu'un en croyant que ça va correspondre à ce qu'il fait. Comme disait Douzou, ça correspondait peut-être à ce que je faisais il y a 5 ans. Mais un éditeur, c'est quelqu'un qui est déjà 2 ans en avance. Enfin, un éditeur de cette taille-là, il est déjà 1 an et demi ou 2 ans en avance sur son programme éditorial. Donc, tomber pile poil chez un éditeur de taille petite ou moyenne, exactement dans la philosophie de création où il se projette déjà 2 ans plus tard, il y a des artistes qui étaient fondés à lui dire, mais c'est exactement ce que vous publiez. Il a été fondé à répondre, bah oui, justement, c'est ce que j'ai déjà publié. Et c'est compliqué, hein.
Oui.
Alors après, il y a aussi une position difficile, c'est la position de critique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours refusé d'aller au-delà de « ça m'intéresse, on se revoit ». Si j'avais pas envie de dire ça, j'ai jamais critiqué, j'ai jamais voulu faire la critique à titre gracieux du dossier de quelqu'un. De quel droit ? De quel droit je peux dire à quelqu'un votre travail est inintéressant, votre travail est très intéressant, mais pas pour moi, allez voir du genou, allez voir du schmoll. Si, sauf quand je veux faire un cadeau empoisonné à un confrère, je lui envoie un taré notoire. Mais non, c'est très difficile. Et moi, j'ai toujours, enfin, ça me semblait honnête de dire aux gens, écoutez, moi, je fais entre 8 et les années lourdes, je fais 8 bouquins, 8 albums, dont certains sont vraiment des albums qui sont déjà dans les cartons depuis un moment, parce qu'ils attendaient de trouver les sous pour être publiés. Je peux pas honnêtement vous faire une critique de votre dossier dans ces conditions-là, c'est pas normal. Mais oui, mais ça nous ferait plaisir que vous nous disiez qu'est-ce que vous en pensez, parce que vous êtes quelqu'un de métier. On y passerait notre vie. Et c'est peut-être pas très sain, en plus. Donc moi, j'ai toujours refusé.
Christian, les gens qui viennent te voir, ils sont dans la logique drosophile ou pas forcément? Parce que c'est une maison tellement moins connue sur le sol français, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que drosophile.
Est-ce que encore quand moins sur le sol suisse.
Ah, bah. Et est-ce que quand même quand on vient te voir, c'est déjà avec l'idée que ça peut être pour toi, ou est-ce que tu reçois tout et n'importe quoi?
Non, il y en a qui sont tout à fait dans l'esprit, mais je reçois tout et n'importe quoi. Donc là, pendant que j'écoutais, je reçois un dossier avec un bouquin d'Italie, gentil editore, j'aime ce que vous faites énormément, votre maison d'édition, naninana, etc. Puis je reçois un bouquin que je trouvais vraiment bien, une histoire sicilienne vraiment chouette. Et puis en plus, ça jouait pour la sérigraphie. Donc je réponds, tac, 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 c'est super. Et puis d'autant plus que ça va jouer très bien pour la sérigraphie. Réponse, ah, parce que vous faites de la sérigraphie. Donc voilà, c'est, là c'était vraiment un hasard, et puis en plus, bon, j'ai vu le gars, et puis l'auteur voulait plus faire le bouquin, enfin bref, c'est tombé à l'eau, mais c'est vrai qu'en plus avec Internet, on reçoit énormément de trucs, mais des catastrophes, quoi, vraiment des catastrophes, et puis le pire, c'est que si vous répondez pas tout de suite, deux jours après, vous recevez un mail, vous m'avez pas répondu, et souvent assez agressif, alors voilà, c'est, si, on reçoit de tout.
Insister sur le fait que vous étiez les uns les autres seuls. J'imagine que faire votre boulot, et Dieu sait que c'est des tâches multiples, Benoît les rappelait très rapidement, si en plus de ça, il faut prendre le temps de répondre à fond sur ce genre de courrier qui ne vous intéresse même pas, ça devient quasiment...
Moi, j'ouvre tous les courriers électroniques, je les ouvre tous et je jette un coup d'œil, quand même.
Oui, ben on regarde quand même, mais c'est vrai que j'avoue que je réponds pas à tout le monde. Maintenant, sur un salon, c'est différent. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Christian, mais c'est peut-être mon côté enseignant, puisque depuis quelques années, j'enseigne aux arts décoratifs à Genève. Donc, on est appelé quand même à regarder les travaux des jeunes auteurs. Alors moi, ce que j'essaie de voir, c'est un tout petit peu dans quoi il pourrait éventuellement progresser. Ou oui, moi, pourquoi pas, puisqu'on me demande, je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est sur les salons et quelquefois à l'atelier quand il y a des gens qui passent. Oui, tout à fait.
Ce qui est terrible à ce moment-là, c'est que je pense à Montreuil, mais je pense à d'autres salons ou à Bologne. Dès que tu acceptes de voir un dossier, tu as une file. Oui, et puis il y a une file, et une file en plus de gens qui sont en appétence de conseils, donc ils s'agglutinent, ils n'arrivent pas à se mettre en file. Ils viennent, puis ils écoutent ce que tu dis sur le dossier d'avant, pour voir si par hasard tu ne vas pas faire les mêmes choses. Et c'est redoutable de faire ça. Moi, à chaque fois, ça me terrorise. En fait, ça me terrorise de faire ça, de répondre.
Mais en fait, moi, j'aime bien.
Ah oui,
non,
mais c'est...
C'est sûr qu'elle est pas belle, c'est Benoît, puis comme de toute façon, il
ne prendra
personne.
Foutez-moi la balle.
Oui, mais c'est vrai que c'est un truc difficile. Moi, j'ai comme vous, d'abord, ce problème des mails, et, parce que les gens trouvent nos noms dans des listings de, ben, justement, de salons, etc. Et c'est vrai que, bon, ben, ça, on ne peut pas en vouloir aux gens de pas nécessairement avoir le temps aussi... C'est vrai qu'on, c'est dur de trouver du boulot et y a un nombre de gens qui sortent des écoles d'art absolument incroyables avec tous l'espoir de gagner des sous comme ça.
Faire une place en tous les cas.
Non, oui, donc c'est assez normal et d'être publié. Donc j'ai juste pas le temps de répondre. Quand on vient me voir à Montreuil, je suis toujours comme toi très content de donner mon avis en expliquant bien que moi de toute façon, et c'est vrai que c'est... Ça me dédouane facilement de dire, écoutez, moi, je ne fais que me publier moi-même. Mais en tout cas, ce que ça fait voir, c'est qu'est-ce que c'est dur, quoi. Qu'est-ce que ce monde est dur. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie comme ça en faisant le tour des agences et des rédactions de journaux à Londres avec un portfolio. Et effectivement, on se prend des claques parfois absolument terribles simplement parce qu'on tombe sur un directeur artistique qui abuse un peu du pouvoir qu'il a de finalement de donner son avis simplement, mais
tu couches pas,
hein, voilà,
tu couches pas,
et en
pas,
fait et en
pas à l'époque tu couchais pas à l'époque.
Non je ne couche pas, non mais ça fait très très mal en fait. On peut se prendre vraiment des claques dont on serait même mal, enfin, ouais. qui cassent, ouais. Parce qu'en plus parfois on va voir un directeur artistique dont on nous a dit, ah ben c'est un tel, il est formidable. Si Monsieur Formidable dit que ce qu'on fait est pas terrible, mais on a l'impression d'être un raté total. Et donc moi je fais toujours très attention dans les réponses que je donne quand j'en donne. Par contre effectivement je reçois des trucs alors parfois hallucinants, et parfois hallucinants aussi de prétention, c'est-à-dire des gens qui sont complètement à côté de leur pompe avec ce qu'ils sont en train de produire, mais qui marque en bout de lettre quand c'est dans le courrier, et j'ai déposé mon texte à la société machin ou auprès de mon notaire pour le protéger. C'est même assez désolant de voir ça. On a envie de dire, mais il n'y a aucune chance. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses.
Ça fait travailler les notaires.
Oui. Mais c'est très curieux. Ce truc.
Là-dessus, moi, j'ai une réponse bête comme chou. C'est-à-dire qu'un jour, à la maison d'édition, ma première maison, au sourire qui mord, quelqu'un sonne. Alors les gens viennent sans rendez-vous. Ding, ding, dong, il y a de la lumière, ils viennent. Bon. Et puis, une dame s'installe avec un dossier. Et puis, je dis, mais pourquoi il y a des coups de cachet sur chacune de vos images? Elle me dit, parce que j'ai protégé par un avocat, etc. Puis je dis, ça vous a coûté la peau des fesses, ça. Et oui, mais enfin, c'est protégé. Personne ne peut me piquer l'idée. Puis je dis, vous savez, un, les idées, ça ne se protège pas, d'une part. Et deux, je vais vous donner un truc qui va vous coûter que dalle. C'est-à-dire que vous mettez une photocopie de votre travail dans un document, dans une enveloppe, que vous vous envoyez à vous-même en lettre commandée. Et bien sûr, vous ne l'ouvrez pas. Donc vous avez la preuve de la date à laquelle votre truc, mais ça vous coûte rien. C'est-à-dire que ça vous coûte le prix de l'envoi recommandé à vous-même.
Vive des tampons.
Vous avez compris, on a surtout orienté notre rencontre sur le petit éditeur créateur, mais pas forcément grand créateur, parce que cette notion-là, moi, ne me paraissait pas indispensable. Mais j'ai quand même voulu livrer, parce que c'est peut-être cet aspect-là qu'on a, de mon propre fait volontairement négligé, qui nous intéressait le plus. Donc il y a des micros qui sont prêts à circuler parmi vous. Donc n'hésitez pas, que ce soit pour poser des questions à nos trois invités, que ce soit aussi peut-être pour donner votre sentiment, parce que peut-être que vous-même, vous avez assisté sur les salons à des choses qui vous ont choqué, sur lesquelles vous voulez avoir l'avis de nos invités. Enfin, à vous de voir. Je vous les livre, et si vous êtes en panne, on trouvera bien quelques questions pour...
C'est plutôt petit éditeur, grand rameur.
Très grand rameur. Vous levez la main et hop, d'un seul coup, le micro volera vers vous.
Il faut absolument que quelqu'un fasse quelque chose, sinon on a l'impression que vous dormiez pendant qu'on parlait.
Je dois reconnaître que personne n'ayant ronflé, vous avez une vraie tenue.
Ouais, c'est pas mal.
Non, mais rassurez-vous, il ne me semble pas que nous dormions.
Non, c'est une méchanceté
de vous voir tous les trois, plus notre Corse. Voilà. Parce que dans cette maison où finalement on parle quand même beaucoup d'édition numérique et de dématérialisation, on a enfin parlé du texte, du livre et du support. Et moi, ça me plaît, ça, voilà, l'odeur. Ouais. Alors j'ai une question à poser en fait aux trois.
C'est bien.
Mais c'est vrai que initialement c'était plutôt, et même peut-être aux quatre. Christian Bruel, que j'aurais eu envie, c'est lui qui m'a donné un peu l'envie de poser cette question, c'est le rapport aux bibliothèques et à la prescription. Quand j'étais bibliothécaire, en exercice il y a donc fort longtemps, les bibliothécaires de section jeunesse étaient d'une certaine façon comme les porte-parole de l'édition jeunesse. L'école des loisirs, entre autres, mais pas seulement, le sourire qui mord, aussi, il y avait une espèce de complicité réelle entre les éditeurs de jeunesse et les bibliothécaires de jeunesse. Et donc, les bibliothécaires prenaient des risques. Et j'ai eu l'impression, à vous entendre, Christian Bruel, que cette complicité-là, que cette prise de risque-là, elle s'est amoindrie. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Et j'aimerais aussi avoir la réponse, bien sûr, de vos deux autres confrères.
Je vais vous donner un exemple brutal. J'ai publié un livre qui s'appelle « Ne désespère pas Gilbert ».« Ne désespère pas Gilbert » d'une Norvégienne qui s'appelle Grodal. Ce livre-là, le voilà. Bon. Ce livre-là, c'est un livre qui... Moi, je fais ce métier pour publier ce livre-là. C'est ce que j'ai dit au traducteur, Jean-Baptiste Courceau, quand il a commencé à me traduire au déboté comme ça le bouquin. J'ai dit « Je veux absolument ce livre-là ». Il m'a dit « Attends, tu vas voir, c'est dur. Je veux publier ce livre-là ». J'en ai vendu 487 exemplaires. Avant Saint-Priest. Oui, j'en vendrais 5 de plus. Non, parce que j'en ai que 5. Comment dire ça? Ça veut dire que les bibliothécaires de jeunesse n'ont pas joué le jeu. Sur un an et demi, ils n'ont pas trouvé nécessaire, urgent, indispensable de soutenir ce type de livre, qui est justement un livre difficile, qui est justement un livre qui vient un peu à rebrousse-poil de ce qu'on attend en général de l'idéologie consensuelle du livre de jeunesse, etc., futile de qualité. Et voilà. Voilà, ma réponse, elle est là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un livre de ce type... Enfin, moi, j'ai commencé, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire, c'est que j'ai commencé vraiment avec le soutien indéfectible des bibliothécaires, et on est quelques-uns à pouvoir le dire ici, et d'un certain nombre d'enseignants et de militants culturels au sens le plus large du terme, etc. Ce tissu-là, il est très effiloché. Et pour des raisons qu'on connaît, hein, qui sont pas des raisons de méchanceté ou de bon, il y a d'abord un problème de frilosité de l'époque, c'est-à-dire que quel est le bibliothécaire ou la bibliothécaire qui a envie de voir arriver un élu
ou un parent d'élève ou un enseignant brandissant le bouquin en disant « mais vous n'avez pas honte, c'est scandaleux, etc. » Et l'association de machins, d'interdiction de représentation des chiens dans les livres de jeunesse, etc., qui vient vous casser les... Bon. Il faut être déjà bien armé et avoir envie de cette pugnacité sociale pour dire « je vous emmerde, je fais le bouquin ». Enfin, ce livre-là, il est dans ma bibliothèque, et puis c'est ma responsabilité professionnelle de faire que ce livre-là soit là. En plus, il est protégé par la loi de 49-956, donc il n'y a pas du tout il n'y a aucun danger pour le professionnel qui est enseignant ou qui est bibliothécaire, qui soutient ça. Et donc, il y a une partie de la profession ou de la médiation au sens le plus large, des intermédiaires entre les enfants et nos livres, pour ne parler que de la littérature de jeunesse, qui ont pas le même sentiment de l'urgence que moi, disons, ou ont un type de rapport idéologique au monde qui a sacrément bougé. Ou, pardon, ce que, oui, bien sûr. Et bien sûr. Il y a 35 ans, moi, on vendait plusieurs milliers d'exemplaires d'un même titre, alors qu'on savait pas du tout comment marchait le réseau de la bibliothèque, de la librairie, par les bouches à oreilles, par la presse de contre-information. Enfin bon, je parle d'une époque, le gang des chenilles rouges, c'est comme ça que j'ai connu le gang des chenilles rouges en 73, d'Ipomée. C'est-à-dire qu'avec des espèces de groupes confraternels de copains qui disaient, venez tirer sur un joint et on parlera des livres d'Ipomée ou des éditions du Sauvage qui mord. J'ai retrouvé des petites annonces dans Libé, dans les premiers numéros de Libération, qui étaient des petites annonces de ce type-là, quoi. Bon. Alors, je veux pas faire de nostalgie, mais cette dimension-là, elle est sacrément oblitérée actuellement. Pour des raisons budgétaires, pour des raisons de formation. Je pense que c'est vraiment un vrai problème. Oui. Alors, sur la production, je crois qu'il y a quand même...
Pardon. Oui. S'ils ne sont pas noyés, oui, ils ne sont pas noyés. S'ils ne sont pas tout simplement noyés, parce que c'était quand même une sacrée époque, les années 80, au niveau de la solidarité, ce soutien de certains libraires, des bibliothèques, la presse, on était...
Il s'est publié, l'an dernier, 12 975 livres pour la jeunesse. 12 975, pour un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Quand on voit les camemberts que publie régulièrement Livre Hebdo, quand on voit qui est propriétaire de qui, n'importe qui, dans la profession, et particulièrement les bibliothécaires, est en droit d'afficher dans son bureau le planisphère, le planisphère, merci, de l'édition, et savoir qui profite à qui et qui est propriétaire de quoi. C'est-à-dire, sur les 12 975 bouquins publiés l'an dernier, moi, je serais à la fourche, j'en enlèverais déjà 10 000. À la fourche. Et donc, c'est un problème de sensibilité, c'est un problème de formation, c'est un problème de budget, c'est un problème... Mais en même temps, quand même, c'est un problème de position politique par rapport à son métier. C'est-à-dire de décider... que peut-être ça peut être assez intéressant de regarder tout ce que publie Rue du Monde. Ça fait pas de mal, c'est pas si compliqué, il n'y a pas tant de bouquins. Je dis pas qu'il faut les prendre tous, mais les regarder. C'est plus urgent de regarder tout ce que publie Rue du Monde, je dis ça au hasard parce que c'est il n'est pas à sa table. Et voilà. Mais moi, je suis pas un fanatique de tout ce que fait Alain Serre à Rue du Monde. N'empêche que je pense qu'un professionnel digne de ce nom, il doit avoir ce type de priorité, quoi, en gros. Alors, je veux bien qu'on soit noyé par les 12 975 bouquins, mais quand même, on a aussi des outils quand on est un professionnel. Moi, je vais pas voir tous les films qui sortent. Et c'est pas parce qu'il sort beaucoup de films que je me sens particulièrement noyé. Et mes choix de cinéphile restent des choix qui sont renseignés. Excuse-moi, j'ai été un peu vif.
Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai ce sentiment d'effilochage, de diffus, de, un petit peu moins. Mais bon, est-ce que en nombre, les personnes passionnées, véritablement passionnées, en statistiques ont changé? Je ne crois pas. C'est qu'il y en a plus, mais on en trouve quand même encore.
Nicole Ménard, on ne l'a pas présenté tout à l'heure,
mais je ne veux pas qu'apparaît le débat.
Oui, non, mais non. Nicole Ménard, qui est la fondatrice de la maison Ipomée, qui a trouvé parfois à être accueillie par d'autres grandes maisons, parfois Le Seuil, parfois d'autres.
Albin.
Ça m'a amusé parce que je me suis retrouvée avec l'expérience de Benoît Jacques. J'ai connu toutes les étapes. Parce qu'au départ, je n'étais pas content, en tant qu'auteur, une maison d'édition voulait me publier, puis ça ne m'allait pas. Et puis, je me suis lancée toute seule. Et puis après, ben, j'ai eu de la chance, les critiques en ont parlé. Puis après, ça a été une autre aventure. Et je me suis retrouvée dans... On imprimait nos bouquins nous-mêmes, sur les machines, on allait. Et puis, après, ça a été très triste, effectivement, quand je suis passée chez Albin. On ne pouvait plus aller ni au seuil, sur les machines, pour le tirage, pour regarder les couleurs, pour caler, pour voir tout ça, parce qu'on était très maniaque et très, très exigeant.
Je voulais juste te dire, puisque...
Je ne vais pas accaparer le débat, parce que...
En tout cas...
C'est exact. Je me suis complètement retrouvée dans... C'est amusant dans vos trois discours, à des étapes différentes de ma vie.
Nicole, juste pour répondre à ce que vous venez de dire à la fin, sur le fait qu'il y a peut-être quand même toujours autant de gens réellement passionnés, je crois quand même la différence entre les années 75, 85 et maintenant, c'est qu'à l'époque, les gens qui osaient s'intéresser à la jeunesse étaient forcément très militants. Il y avait une envie de créer une brèche et de donner un discours critique, de donner une espèce de référence à un endroit où il n'y avait pas de référence parce qu'on était dans la reproduction de niaiseries hors d'âge. Enfin, il n'y avait pas que ça, mais il y avait quand même ça. Et qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de gens qui connaissent un peu mieux la jeunesse, mais il n'y a pas forcément ce sacré. Et je dirais que l'idée d'ouvrir la brèche avec des choses fortes, des choses dérangeantes, des choses qui bousculent, était quasiment une nécessité. Et qu'aujourd'hui, les choses qui bousculent, qui dérangent, même les gens qui s'intéressent à la jeunesse, on a plus de mal à les imposer. Soit parce qu'on est moins convaincant, soit parce qu'on sait qu'on n'est plus entendu. Le livre dont parlait tout à l'heure Christian, à mon avis, tout à fait exemplaire. Quand j'ai vu ce bouquin-là, j'ai dit « Putain, c'est dur, mais qu'est-ce que ça fait du bien que ça existe ? Mais comment faire passer ça ?» Alors que je pense que dans les années 75-85, quelqu'un qui trouvait un livre difficile, dérangeant, provoquant, eh ben, au contraire, on en était très content d'avoir une espèce de brûlot à balancer pour dire « Vous voyez que la jeunesse, c'est tout sauf ce que vous imaginez. » Et il y avait comme ça une espèce de façon de trouver le feu, enfin le matériau pour alimenter le feu. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué.
Et puis, je revois revenir les tranches d'âge. Moi, je me suis battue toute ma vie pour on s'adresse, je l'ai toujours dit, à des sensibilités, pas des tranches d'âge. Je me suis
on s'adresse à nouveau à des sexes, maintenant.
Pas de tranches d'âge, et on les voit revenir énormément.
C'est même les directives ministérielles.
Hein. Ah oui, moi, c'est insupportable.
J'avais interpellé le ministre de la Culture, de l'Éducation nationale, qui était de Robien à l'époque, où il avait demandé à ce qu'à nouveau, on mette au dos des livres. De quel âge à quel âge? Et on avait beau lui dire que selon l'endroit où l'enfant était scolarisé, un gamin de 6 ans dans certains quartiers, il n'avait pas le même rapport au livre qu'un gamin de 6 ans ailleurs. Pour lui, c'était ça rassure tout le monde et ça met de l'ordre dans les têtes.
Mettons de l'ordre dans les têtes. Moi, je me suis battue au seuil, j'ai exigé pour des romans. Me concernant, j'ai dit je ne veux pas de tranche d'âge. Sinon, je n'ai pas de bouquin. Je ne veux pas. Déjà, qu'ils ont des couvertures, ils se sont.
Ça devenait des directives d'État, quoi. C'est là qu'on marche sur la tête.
Ça, je les ai toujours absolument refusés et combattus.
Alors, parmi les jeunes bibliothécaires qui sont face à nous et qui nous voient parler comme des anciens combattants, n'hésitez pas à poser des questions qui soient plus tournées vers l'avenir que vers le passé. À moins qu'on ait carrément. Fini de ruiner votre vocation en disant « Mon Dieu, c'est beaucoup plus compliqué qu'on imaginait. »
Alors, je ne suis pas jeune bibliothécaire.
Mais si.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, on ne passe plus de temps sur les contenus dans les bibliothèques. Et le gros problème est là. Alors, on a parlé de la formation, on a parlé du politique aussi, on a parlé de la charge de travail. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 20 ans, comme bibliothécaire, on avait toutes les semaines des réunions où on regardait les albums. Et où on partageait aussi. Maintenant, ça fait 10 ans que j'achète dans mon coin, toute seule, devant mon ordinateur, et que je me pose les questions seule. Enfin, pas toujours, puisque je participe à des moments comme celui-ci. Mais je crois que le gros problème vient d'ici, c'est que les contenus aujourd'hui sont plus du tout... on passe plus du tout de temps sur les contenus. Alors, si les jeunes bibliothécaires sont là, ce serait bien de savoir si dans le cadre de la formation, moi, ça m'intéresserait, si aujourd'hui, quand on va être bibliothécaire demain... On passe du temps à regarder voilà, l'album dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai acheté, donc qui est dans la bibliothèque dans laquelle je travaille.
Ah, c'était vous ?
Voilà, c'était moi. Parmi les 400, il y a moi.
Vous n'avez que 486 confrères.
Voilà, donc cette question des contenus, moi, ça me préoccupe énormément parce que je n'ai plus d'endroit où je peux partager sur les contenus. Et parce que, bien évidemment, seul, c'est intéressant d'explorer un livre, mais c'est aussi intéressant d'avoir plusieurs regards. On se pose des questions sur le livre dont vous parliez, on se pose beaucoup de questions parce qu'on s'en prend plein la figure et qu'après, on a envie d'échanger sur des contenus comme celui-ci, surtout sur cela.
Je peux. J'ai envie de dire une chose un peu vigoureuse. Sur la question des contenus, je ne vois pas... Ça va être double ce que je vais dire, ça va être un peu compliqué. Ça va être très dialectique, en fait.
Nous avons un idéologue.
Non, mais ça va être compliqué. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les livres de jeunesse seraient plus porteurs de sens que l'ensemble de l'époque ? Première règle. C'est pas pour se désespérer, mais il n'y a pas de raison objective que le livre de jeunesse se trouva être un creuset de... ça se discute à la marge, mais globalement, il n'y a pas de raison. Bon, et ceci étant dit, le livre de les albums en particulier, je pense qu'ils souffrent beaucoup de ce que Bourdieu appelait la distinction. C'est-à-dire que, faute de contenu, faute de sens, faute de nécessité du concept, parfois, il y a une surenchère esthétique, il y a une surenchère... on se distingue dans un milieu concurrentiel plus par une surenchère esthétique que par les contenus. Et il y a une habitude prise par un certain nombre de médiateurs de discuter beaucoup plus sur cette distinction esthético-machin que sur la nécessité, le sens... l'interprétation, toutes choses qui sont des gros mots.
En tant que critique, là pour le coup je prends ma casquette de critique littéraire, je pense que tu as en partie raison, mais en partie seulement, parce que je pense que le niveau esthétique des albums a fortement monté. C'est pas simplement parce que le texte s'est retiré qu'on s'est mis à... Donc il y a une exigence, mais pourquoi ? Parce que c'est immédiatement communicable. On feuillette un album, on est saisi par un choix graphique, et la séduction, elle est dans l'instantané. Et le texte, il faut prendre le temps de le lire, il faut prendre le temps de le digérer. Souvent, on ne s'y attarde pas, mais je trouve que la vraie faillite, elle est plutôt dans le roman. Parce qu'il y a un nombre de romans jeunesse absolument phénoménaux actuellement. Or, la plupart ne sont pas écrits, sont quasiment des exercices de tâcherons. Il y a bien sûr de bons romans, il ne s'agit pas de dire l'inverse. Mais statistiquement, il y a beaucoup plus de déchets encore dans les romans, où des gens font des trucs au maître. Moi, je me souviens d'il y a 15 ans, quand on a eu Les Chairs de Poule, et puis après, il y a plein d'autres séries, Les Babysitters, les ceci, les cela. Il y a des séries entières de livres qui n'ont aucun intérêt d'écriture, aucun intérêt narratif, et qui font des maîtres et des maîtres de bibliothèques. L'album, malgré tout, pour s'imposer, a au moins besoin d'être séduisant, ce que ces hypothèses romanesques n'ont même pas besoin de revendiquer. Et je pense que la faillite est bien plus grande dans la littérature que dans l'album.
J'en suis d'accord. J'en suis complètement d'accord.
C'était le texte de l'album parfois.
Hein. J'en suis complètement d'accord. Mais sur l'album, pour y revenir, je maintiens... Et ça raccorde les wagons avec ce qu'on se racontait tout à l'heure sur quand on reçoit des dossiers d'illustrateurs, etc. On se trouve avec... Enfin, moi, mon expérience d'éditeur là-dessus, pour ce que j'ai vu de dossiers quand même, parce que, bon, même si je dis que je les vois pas, j'en vois beaucoup, y compris par Internet, c'est qu'on est souvent dans une séduction et dans une qualité graphique, dans quelque chose qui est oui, c'est de la séduction. Et cette séduction, elle va fonctionner aussi comme produit d'appel, enfin, comme déclencheur d'achat, bien entendu. Mais ce qui est important, c'est que malgré tout, notamment dans les albums, ça n'est pas que des objets esthétiques. C'est aussi quelque chose qui fonctionne. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, surtout. Et puis, l'autre chose que je voulais faire remarquer aussi, et c'est pour ça que c'est bien que vous existiez, comme éditeur, je trouve, si je peux me permettre, même si vous êtes des éditeurs particuliers.
Il faut pas déserter, il félicite les autres de venir, c'est bien.
Non, c'est pas ça. C'est à l'inverse de ce que je racontais sur l'esthétique. C'est compliqué de dire des choses définitives sur un sujet aussi compliqué. Mais sur l'esthétique, je trouve que on a gagné. Tu faisais ce geste-là, donc tu mettais en trois dimensions, des hiérarchies. Sauf que on continue d'être globalement figuratif. Et dans l'échelle d'iconicité, on flirte rarement avec l'abstrait ou le non figuratif. Et l'avantage des éditeurs auto-édités ou des livres d'artistes, etc., c'est qu'ils soutiennent complètement cette nécessité absolue de n'être pas toujours dans le figuratif.
Moi, je voulais revenir sur la question de monsieur. Il marche plus, celui-là. Sur votre question à propos des.
Peut-être qu'il faut
du soutien.
Il faut dépoucher, peut-être.
Dépoucher.
Voilà.
Ah oui,
voilà. C'est plus agréable.
C'est dépoucher tout seul.
Moi, j'ai évidemment.
du fait de mon mode de fonctionnement, un sentiment d'être extraordinairement soutenu quand même. Mais je crois que c'est lié en partie au fait que j'entretiens un rapport qui est un peu le même que celui que j'entretiens avec les libraires, qui est avec les bibliothécaires, je veux dire, qui est un rapport vraiment de personne à personne. C'est-à-dire que sur le temps, des liens très forts se nouent. Et j'ai le sentiment que ça fait partie des choses qui tendent à disparaître dans le monde actuel. C'est tout va vite. On communique par email et on ne voit plus les gens, etc. On envoie des documents par la poste ou par email plutôt que d'aller rencontrer un éditeur, ce qui fait une différence absolument énorme parce que le travail qu'on fait, c'est une chose, mais qui on est, qui l'autre est, qui la personne, qui est l'interlocuteur, ça intervient énormément, je pense. Et moi, j'ai le sentiment, d'une part, d'avoir été soutenu pendant des années, quoi, par des libraires qui sont, au fil du temps, devenus des amis, qui ont évidemment, dans un premier temps, réagi à cette démarche un peu particulière du type tout seul avec ses sacs de bouquins, mais qui ont vu aussi tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à partir du moment où ils pensaient que les livres valaient quelque chose, évidemment, mais à soutenir quelqu'un qui serait pas visible partout. Donc déjà, il y a cette chose très intéressante du fait d'un petit peu démystifier l'idée d'être présent partout. Ça, c'est absolument pas indispensable. Et j'ai envie de dire, avec les bibliothèques, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des bibliothécaires, moi je trouve des gens absolument fabuleux, à qui je dois vraiment beaucoup, beaucoup, pour avoir, à un moment donné, circulé sur un petit salon du style de Saint-Priest. En plus, au début que je le fréquentais, c'était vraiment très, très modeste et très discret, hein. Mais avec beaucoup de, comment dire, de liberté, de conviction personnelle, s'être intéressé à la production, de voir comment c'était fait, de comprendre qu'il y aurait pas forcément un emplacement prédestiné pour ce type de production dans la bibliothèque, parce que je sais que mes livres, ils posent souvent ce problème-là, on sait pas trop de nouveau où les classer, mais qui font face à ça avec leurs envies et leur goût personnel. Donc moi, évidemment, comme de nouveau, ça n'engage jamais que moi, toutes ces histoires. J'ai plutôt un sentiment très positif par rapport à ça. Et par ailleurs, enfin, je voudrais quand même insister sur le fait que ici en France, vous avez, et bon, Dieu sait s'il est menacé en ce moment, mais un réseau absolument extraordinaire de bibliothèques quand même. Je veux dire, il faut voir que dans des pays comme l'Angleterre, les public libraries sont beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus soumises aux choix décidés par les gros distributeurs des maisons d'édition, les chaînes de librairies, etc. Donc il y a encore quand même, ici en France, je trouve, enfin, le sentiment qu'il y a une liberté de choix. Oui, oui, et puis...
Juste un truc. Parlons des libraires. Tes livres, je les vois en librairie parce que les libraires les prennent tout contre eux. Et ça, c'est touchant, effectivement. Tout contre eux. C'est-à-dire sur le comptoir, au plus près de la caisse, de manière à pouvoir les travailler avec une clientèle de sensibilité. Que le libraire sent et il sait que ça vaut le coup d'argumenter le dernier Benoît Jacques parce que c'est même pas la peine de l'argumenter quelque part parce qu'il a déjà créé cette appétence et le client, le comptoir des mots que tu connais, qui est juste à côté de chez moi, eh bien la libraire est une fanatique et tes livres ils sont sur la caisse, toujours. Ou bien s'ils sont pas sur la caisse, il y en a au moins sur la caisse, mais... C'est qu'il n'y en a plus, ou en tout cas, ils ne sont pas loin. Et si le libraire n'a pas cette appétence-là, n'a pas ce que tu décris, hein, ça ne fonctionnera pas. Tes livres vont être cuits. Alors, et maintenant, ça, c'est acquis. Mais maintenant, imagine 200 Benoît Jacques, ce qui est un cauchemar. Bon. Imagine 200 Benoît Jacques, ou équivalent, qui viennent prendre des rendez-vous individuels avec le libraire et qui vont attendre du libraire qu'il fasse ce boulot-là, affectivo-commercial, avec 200, 300, 400, 500 comptes. C'est techniquement absolument impossible. Et donc, on est dans une espèce de nœud contradictoire qui fait que c'est malgré tout un commerce et que le libraire qui va argumenter 20 minutes sur le premier Benoît Jacques qui ne va pas réussir à vendre, il ne va pas réargumenter encore 20 minutes sur le client suivant. Il va se dire...
s'il n'est pas franchement militant culturel, s'il n'a pas sa cheville au corps, il va se dire heureusement qu'il me les a mis en peu d'exemplaires.
Tu vois? Mais c'est pour ça que j'insistais sur cette espèce d'aspect humain. C'est que, évidemment, et j'en suis absolument conscient, tout ça ne tient que par le côté humain. Si d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience et je l'ai payé un peu cher. C'est à un moment donné, j'avais fait un livre qui me semblait s'apparenter au domaine de la bande dessinée, mais bon, pris de manière un petit peu inhabituelle. Et je m'étais dit, ben super, j'avais entendu dire qu'il y avait en France 5000 acheteur de tout ce qui se publiait en bande dessinée, donc plein d'un espoir naïf, j'ai fait 3000 exemplaires de ce livre et j'ai été trouvé
il va m'en manquer 2000
et j'ai été trouvé un diffuseur que tu connais sûrement, qui est un monsieur qui s'appelle Latino Imparato, qui a une maison de diffusion et de distribution, enfin qui avait, parce que maintenant il ne fait plus que de la diffusion, pour des petites maisons d'édition un peu marginales et dans le domaine de... Tu le connais, Christian?
Non, je ne le connais pas.
Dans le domaine de la bande dessinée marginale. Oui, aujourd'hui encore. Et en fait, ça a fait un flop terrible, parce que, bon, évidemment, ce monsieur a dit, bon, ben, moi, je m'occupe de tout, tu ne vas pas marcher sur mes plates-bandes, donc tu ne le diffuses pas, tu ne le distribues pas. Et lui, évidemment...
Tu peux pas faire de l'inspection de vente?
malgré le fait qu'il ne diffuse que des petits, il en a quand même je ne sais pas combien, et donc il a genre 100 ou 200 nouveautés tous les mois, et évidemment après un ou deux mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il ne vendait plus un seul de mon livre à moi. Moi je fais environ un livre par an, donc après quelques mois il n'en vendait plus un seul, et je suis resté avec 2500 Merci. Exemplaires sous mon lit, et ça m'a montré, sans compter que ça a créé une confusion énorme dans la tête des libraires qui me connaissaient déjà, qui ont dit mais je ne comprends pas, pour certains bouquins je dois aller directement chez lui, mais non,
enfin, vous ne pouvez pas nous le vendre, ben non.
Voilà. Donc c'est vrai, c'est de nouveau très très fragile, mais par contre c'est en même temps c'est une force, c'est-à-dire que quand on prend l'aspect humain pour ce qu'il est, qu'on le comprend bien, qu'on n'exige pas d'être partout, comme je disais tout à l'heure, il y a moyen vraiment, au travers d'un petit réseau, de quand même fonctionner, quoi.
Un premier vendeur en librairie à 1 400 € par mois, il rencontre des représentants en longueur d'année.
D'année.
Et c'est vrai que si en plus il doit rencontrer
des mecs,
chaque porteur de valise, tu vois. Oui. Mais c'est pas péjoratif de dire péjoratif. On peut pas attendre ça du libraire.
Non, on l'attend pas, mais de toute façon, Christian, là, tu pousses le bouchon volontairement assez loin, parce que des gens autoproduits comme Benoît, il n'y en a quasiment pas. Alors, on
peut imaginer
qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 15, mais le rêve de 200, c'est un rêve qui est hors de situation économique. Puisque même des gens qui ont des reins un peu plus solides, qui ont des auteurs, tu en es l'exemple vivant, n'y arrivent plus. Donc, effectivement, en hypothèse d'école, tu as complètement raison. Mais bon, cette hypothèse d'école, malheureusement, qu'on est très loin de connaître.
Je voulais simplement dire qu'il y a, les usages interprofessionnels et il y a la marge par rapport à ces usages. Et cette marge, elle est nécessaire. Comme disait Godard, elle fait tenir les pages du cahier ensemble, la marge.
Ce serait bien qu'il y ait...
Nos jeunes bibliothécaires...
Oui, les jeunes bibliothécaires.
Ont-elles envie de nous,
mais oui,
nous faire
envie.
Part de leur...
Elles ont super
envie. État psychologique après tout ce qu'on a dit. Parce qu'on a le droit à des sourires, c'est déjà pas mal.
Oui. Mais nous, des bêtises, on en dit, alors vous avez le droit aussi.
Oui, il faut
nous
dire.
Nous aussi, on a des sourires à vos bêtises. Non, là, je suis en train de les terroriser. En plus, ils vont se moquer de nous, c'est clair.
Ils avaient promis qu'ils ne nous poseraient pas de questions.
Non, en plus, on ne veut même pas forcément des questions, ça peut être juste des réactions. Est-ce que tout ce qu'on vous dit, ça vous rassure plutôt sur comment vous allez vous placer? Est-ce qu'au contraire, ça vous submerge en disant c'est encore plus compliqué que ce qu'on croyait? Si on laisse passer un bouquin nécessaire, on a l'air de quoi? On vous aide à déstresser ou au contraire, on en rajoute dans votre mal-être? Je suis pas très sûr de la réponse.
Moi, j'aurais une question quand même. Des 3 éditeurs qui sont là, vous connaissez nos livres?
Aucun des 3.
Aucun des 3.
Non, mais on parle pas de la vieille garde.
mais vous allez être bibliothécaire. C'est une lourde responsabilité vis-à-vis de la société des bibliothécaires.
On va demander, est-ce que vous ne soyez pas titularisé, c'est pas possible. Comment on vous a donné envie d'aller voir leurs livres? Bon.
Ça, c'est gentil.
Bon, on peut y aller.
Je commence à m'inquiéter sur l'efficacité de la rencontre. Oh ben non, vu ce qu'ils font, là, franchement, ça ne nous fait absolument pas envie.
Il y a un dessin d'un dessinateur anglais qui s'appelait John Glasham, pas très connu en France et qui maintenant est plus très connu malheureusement des anglo-saxons, mais qui était un type absolument génial dans les années 60-70. Il y a un super dessin, parce que j'étais en train de me dire que peut-être vous n'étiez pas du tout des bibliothécaires, qu'on s'était gouré d'auditoire. Mais il y a un dessin de lui qui est fabuleux, d'un petit bon... Il dessinait toujours des petits bonshommes, ça un peu, je vais dire bêtement à la Sempé, mais c'est pas du tout Sempé, mais enfin c'est dans ce type d'état d'esprit de dessin très léger, comme ça, très 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 beau. Et il y a un petit bonhomme qui est à Trafalgar Square, sur une estrade, devant une foule incroyable, on voit des gens jusque dans les rues derrière. Et le type dit au micro, j'ai oublié ce que je suis venu vous dire. Et c'est super joli, ces moments de silence comme ça, de décalage. Mais j'aime pas du tout les estrades comme ça, les trucs. Il faut vraiment faire en sorte que ce soit des discussions, ce genre de rencontres, sinon on s'ennuie, quoi. Il faut que vous veniez à Saint-Priest,
si
déjà.
Si vous n'êtes pas bibliothécaire, vraiment. Vous êtes quoi? Étudiant dans quel... D'accord. Et vous avez réussi à traduire dans d'autres langues ce que nous venons de dire, ou vous allez le garder, précisément disant ça ne vaut pas la peine d'être traduit. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que donc, demain après-midi, c'est la journée, l'après-midi pro, mais samedi et dimanche, venez à Saint-Priest, vous verrez les créateurs et vous verrez surtout les livres, parce que là encore, la vraie rencontre, elle se fait avec le livre, elle se fait pas forcément avec l'auteur, l'éditeur. Ça peut être des gens passionnants, c'est pour ça qu'on vous a demandé de les voir aujourd'hui. Mais c'est tellement plus important de rencontrer un texte ou une image que de rencontrer quelqu'un qui peut-être peut vendre très mal son travail. Il y a des auteurs magnifiques qui sont des êtres détestables, alors restez-en au livre souvent, mais au moins allez voir les livres, parce que c'est là que ça se passe, quoi. C'est là qu'on prend le virus, c'est là qu'on a envie de devenir contrebandier, et de prendre les mêmes images et les mêmes mots pour les faire aller très très loin. Et que vous ne soyez pas bibliothécaire, c'est pas gênant. Moi, j'ai passé mon temps à faire de la contrebande et j'ai jamais été bibliothécaire. Donc, vous savez, c'est pas un problème, ça.
Et Philippe Jean, il faut quand même dire que des salons comme Saint-Priest, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, qui rassemblent autant, d'abord, un tel panorama de ce qui se fait dans ce domaine, mais avec autant de gens marginaux. Enfin, il y a vraiment une richesse. De ce point de vue-là, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, c'est très enthousiasmant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des trucs, ça donne envie, hein,
vous
franchement.
Vous ne verrez pas ça souvent. Ouais. Donc, sauf une fois tous les ans, début novembre, mais profitez-en aussi parce que ces salons aussi sont assez fragiles. Enfin, là, pour l'instant, les rapports entre Marie Paquet, qui est la responsable du salon, et la municipalité qui l'accueille sont bons. Et vous savez à quel point, parfois, les aléas politiques peuvent faire qu'un endroit, une manifestation qu'on croit solidement établie peut, revirement électoral ou autre, être menacée.
Et par exemple Montreuil, dont je suis vice-président, je peux vous dire que Montreuil a encore failli non seulement disparaître à cause de la subvention qui a été sucrée, mais très récemment, on a encore eu un conseil d'administration un peu musclé il y a 15 jours, parce que 630 000 euros ont disparu du financement du salon.
Ah, ça c'est moi, j'ai oublié de dire.
On dit ont disparu. Ah, c'était toi.
Je me dénonce, faut
avouer. Vous passez au secteur presse. Vous avez de l'avenir, vous avez quelque chose à leur vendre.
Non, mais ce que tu dis est très juste, y compris pour des grosses machines comme Montreuil, qui sont donc qui ont l'impression, dont on pourrait avoir l'impression que ce salon est installé dans le paysage in aeternam. C'est sûrement pas le cas.
Et puis la chute de Livre au Trésor aussi. Quand même.
Et la chute de Livre au Trésor aussi, qui est aussi un épiphénomène de taille par rapport à ça. Ouais. Et on a réussi quand même à tenir le salon cette année en faisant une économie de structure de 260 000 euros, mais surtout en faisant, et ça c'est dramatique pour une association, en votant un budget en déficit. Un budget en déséquilibre. Ce qui fait que les élus ont refusé les élus qui sont au conseil d'administration se sont abstenus, n'ont pas voté contre, mais se sont abstenus parce qu'ils ne peuvent pas voter un budget en déséquilibre. Mais pour l'instant, le salon, enfin, aujourd'hui, au moment où nous parlons, le budget du salon est en déficit de 270 000 euros. En déséquilibre de 270 000 euros. Donc ça ne peut pas tenir.
Vous l'avez compris, on fait appel à vos économies, si vous avez des grandes fortunes, donnez de l'argent contre...
Non mais c'est incroyable, sur un salon dont le budget est 2,6 millions,
en euros. C'est un très gros salon.
C'est le principal salon du livre de jeunesse en France. C'est-à-dire qui est situé juste avant Noël, pour ça aussi. Il y a un moment où on a voulu changer sa date, c'est bien sûr impossible. Le seul moment où on peut voir n'importe quel média se mettre à parler un peu de livre de jeunesse, c'est parce que Noël est à une encablure. Donc la date est quasiment automatique, elle est figée, on ne pourra pas la bouger. Après, reste à savoir.
Oui, parce que cette année encore, Noël est en décembre.
Pour l'instant, Noël est encore en décembre. Mais vous savez, on réforme tellement en ce moment que tout est possible.
Tout à l'heure, tu disais un truc très drôle sur la découverte de l'Amérique.
C'est par hasard. Hein,
j'ai trouvé ça m'a fait penser à un truc que j'ai lu récemment, ça m'a fait hurler de rire. Si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, John Fitzgerald Kennedy serait encore vivant.
C'est sans doute vrai.
Ça pourrait peut-être être le mot de la fin.
Je ne sais pas.
au moins celle de Kennedy.
Je peux déchirer le papier que j'ai signé chez vous.
Non, mais à partir de 18h30, c'était plus enregistré. Nous avons débordé de 22 minutes. Donc c'est bon, tu es à l'abri. Bon, je vais vous laisser conclure.
Je tiens juste à vous remercier tous les trois pour votre présence, pour ces récits d'expériences croisées qui se sont bien répondues et à mon avis qui ont intéressé beaucoup notre auditoire. Voilà, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci.